Je suis si heureux d'être de nouveau ici ce matin. Je pensais justement à cette neige qui... Eh bien, si nous étions dans le Colorado, cette neige serait vraiment molle et floconneuse. Il ferait environ moins 40. Et vous pourriez souffler là-dessus comme ça, et ça deviendrait de la poussière. Et ce serait ainsi tout l'hiver. Mais maintenant, comme ici, on est dans une sorte de couloir entre deux zones. Alors c'est vraiment mouillé. Ça devient de la gadoue et mauvais. Et là, on dirait que j'ai simplement envie de m'en aller en Arizona et d'attendre le retour du printemps et ensuite revenir. C'est ainsi que nous attrapons tous des rhumes, là. Les microbes et tout sont sur le sol, puis ça gèle et dégèle, puis gèle et dégèle. Ça remonte dans l'air et nous respirons cela. C'est alors qu'on attrape des maux de gorge, des maux de tête, divers maux et diverses douleurs. Et oh là là, quel temps, quel endroit!
There's a land beyond the river that they call that sweet forever. And we only reach that shore by faith degree. One by one we gain that portal there to dwell with the immortal. Amen. Someday they'll ring those golden bells for you and me.
C'est là que nous rentrerons à la maison pour y demeurer, n'est-ce pas? Voilà le jour que nous attendons. Eh bien, hier soir, j'ai vraiment aimé ces merveilleuses prédications et ces choses que j'ai entendues de mes frères. Où est Pat Tyler? Est-il ici ce matin? Pat, oh, je n'avais pas vu que tu étais assis là, en chair et en os. Et je n'avais pas vu que tu étais assis là. C'était la toute première fois que entendais Pat prêcher. J'ai vraiment apprécié ça. Je suis sûr que nous l'avons tous apprécié. Puis, il y a eu ce petit frère qui a donné ce témoignage énergique, une prédication. C'était vraiment comme une rafale de mitrailleuse. Un frère de Loyo que j'ai rencontré. Est-il ici ce matin? Est-il quelque part ici? Frère Neville avait remarqué que sa prédication était très énergique, comme une rafale. Puis, frère J.T. Parnell, et je pense qu'ils n'ont pas eu le temps de faire prêcher frère Biller. Est-ce que frère Parnell est ici? Père Parnell, père Biller? Je ne suis pas certain. Il me semble que j'ai vu frère Biller. Ces lumières, c'est un... Quand on construira le nouveau tabernacle, j'espère qu'on les disposera différemment, que ce sera un peu différent. Ceci, c'est notre premier tabernacle. C'était expérimental. Et si jamais nous en avons un autre, eh bien nous souhaitons qu'il soit un peu différent de celui-ci. On a du mal à voir. J'aime quand un tabernacle est construit un peu en pente, comme ceci, par rapport à l'auditoire. Ainsi, on a une pleine vue de l'auditoire en tout temps, surtout lors des réunions où s'opère le discernement. Là, on peut voir partout. Vous voyez, là, on peut appeler les gens d'un peu partout. Par-ci, par-là. Et puis, même si on doit avoir un petit balcon pour permettre de s'avancer, c'est mieux. Frère Littlefield, si Billy est ici, il m'a appelé hier soir. Il m'enverra les plans du tabernacle que j'ai dédicacé là-bas et que les architectes, Frère Wood, je crois qu'il a dû payer $500, rien que pour la conception des plans par l'architecte. Et ce frère enverra cela avec le devis et tout ce qui concerne les matériaux, le nombre de planches de 2x4 et de telle ou telle dimension requises pour cela. Il nous enverra ça et il aimerait venir. Il a dit qu'il ira dans des dépôts de bois et tout pour voir s'il pourrait obtenir d'eux un rabais comme ils l'ont fait pour son église. Un très beau tabernacle. Pas très grand, mais c'est un beau bâtiment. Alors je remettrai tout cela aux administrateurs et aux diacres dès que Billy les aura reçus. Et puis nous les laisserons étudier le budget pour voir combien il leur faudra pour commencer les travaux. Il a dit, quand vous commencerez, je viendrai. J'enfilerai ma salopette et je serai à vos côtés pendant tout ce temps. Père Littlefield est un homme très sympathique, un homme bienveillant. Très aimable. Alors, vous sentez-vous tous prêts maintenant pour la nouvelle année, pour la commencer? Amen. Pour entrer dans la nouvelle année, nous voulons bien la commencer, au service du Seigneur. Combien se sont levés ce matin et l'ont remercié pour l'année passée et tout ce qu'elle a représenté? Et lui ont demandé, oublions le passé. C'est ce que nous avons fait au pied du lit quand nous nous sommes levés. Puis nous sommes allés à table. où d'habitude nous avons notre petit autel familial. On se réunit autour de la table pour prier. Ainsi donc, nous essayons toujours de garder notre routine de prier le soir avant d'aller au lit. Je le fais depuis ma conversion. Le matin, quand je me lève, il fait trop sombre et c'est trop brumeux pour que je puisse marcher. Je ne sais pas où je vais, mais je lui demande simplement de prendre ma main et de me guider tout au long de la journée. Alors je me souviens du temps où je vivais là, de l'autre côté de la rue. Je n'étais qu'un jeune homme. Billy Paul avait peut-être 3 ou 4 ans, et nous habitions juste de l'autre côté de la rue. Et une nuit, il voulait boire de l'eau. La louche était dans le seau d'eau à la cuisine. Et j'ai dit, « Oh, j'étais tellement fatigué. J'avais travaillé dur toute la journée et prêché la moitié de la soirée. » Et il a dit, « Papa, je veux boire. » Et j'ai dit, « Billy, va là-bas dans la cuisine. Il y a de l'eau sur la petite table. » J'ai dit, il s'est levé, s'est frotté les yeux, a regardé là et a dit, « Papa, j'ai peur d'y aller, voyez. » Et j'ai dit, « Eh bien, c'est... N'aie pas peur. » J'ai dit, « Vas-y, chérie, va boire. Papa est très fatigué. » C'était tout près, un peu comme d'ici, à cette fenêtre. Et il a dit, « Mais j'ai peur d'y aller, papa. » Voyez, eh bien, je me suis levé pour accompagner le petit. Il s'est approché et a attrapé ma main, ce qui était une bonne chose. À peine avions-nous fait 4 ou 5 pas qu'il a heurté le tapis qui se trouvait sur le linoléum, là où Meda avait ciré le plancher. Vous savez ce que c'est. Il a glissé, mais je tenais sa main. Alors, il m'a serré encore plus fort. Puis, je me suis tenu là un instant et je me suis dit, « Oh Dieu, c'est vrai, voyez, je n'aimerais pas faire un seul pas sans que tu me tiennes la main, parce que je ne sais pas quand il m'arriverait de glisser, vous voyez. Tant que je sentirai ta grande et puissante main tenir la mienne, je sais que tu me soutiendras comme un... voyez. J'essaye donc d'en faire une habitude, de garder ma main dans la sienne. » J'ai parfois fait des choses qui semblaient ridicules à mes propres yeux, des choses qui semblaient vraiment illogiques pour la pensée humaine. Mais si on laisse cela tranquille, je découvre par la suite que c'était la seule chose à faire pour que ce soit en ordre. Vous savez, les choses qui semblent n'avoir aucun sens ici, si Dieu vous conduit à les faire, elles prendront tout leur sens quelque part. Voyez-vous, parce qu'il sait comment conduire. Ainsi, puisqu'il est notre grâce entièrement suffisante et que tout ce dont nous avons besoin ou dont nous nous soucions est en lui, mettons donc toute autre chose de côté sauf lui et tenons la main immuable de Dieu. Nous avions l'habitude de chanter un cantique ici que je n'ai pas entendu chanter depuis longtemps. Bon, je ne sais pas chanter et il y a... Je ne pense pas qu'il y ait de nouveaux venus parmi nous. Donc, c'est pour ça que j'essaie de chanter ces petits cantiques, vous savez, parce que j'aime vraiment ça. Jean, si tu permets la diffusion de cette bande avec cette partie-là, j'avais l'habitude de chanter un petit cantique ici. Le temps n'est que changement rapide. Rien sur terre n'est immuable. Bâtis ton espoir sur les choses éternelles. Tiens la main du Dieu vivant. Combien d'entre vous ont déjà entendu ce cantique? Oh, j'aime ça. Pas vous? Chantons-en un couplet.
Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal.
Chantons un couplet.
When our journey is completed, into God we have been true. Fair and bright your home in glory, your enraptured soul shall view. Unchanging hand, hold to God's unchanging hand, build your hopes on things
Levons-nous un instant pour prier, si vous voulez bien, alors que nous levons nos mains vers Dieu et que nous chantons cela une fois de plus.
This world's vain riches that so rapidly decay. Build your hopes on things eternal. They will never pass away. Heavenly Father,
Père Céleste, alors que nous sommes debout, Seigneur, nous aimons tant chanter ces vieux cantiques. Ils vont jusqu'au tréfonds de notre cœur et font ressortir l'expression de notre amour pour toi, le Dieu vivant. Alors que nos mains sont levées ce matin, Seigneur, c'est un petit mémorial pour dire « Tiens nos mains, Seigneur ». Comme je le disais au sujet de Billy Paul, qui s'était agrippé à ma main, il serait tombé si je ne l'avais pas tenu. Et, ô Dieu, combien de fois ne serions-nous pas tombés si tu ne nous avais pas tenu la main? Quand je pense à lui, sans mère, quand il était un petit bébé, et à ce que, combien tout au long de sa vie, les voies qu'il a suivies, il serait mort il y a longtemps. Mais il y avait une grande main qui pouvait l'atteindre, là où la mienne ne le pouvait pas, et le tenir. Nous sommes donc si reconnaissants pour cela. Nous sommes si heureux de savoir, Seigneur, que lorsque nous sentirons notre âme se séparer de ce corps, il y aura encore une main que nous pourrons saisir et tenir pour qu'elle nous guide lors de la traversée du fleuve. Nous te remercions pour ces choses, pour cette assurance bénie que nous avons, cette ancre de l'âme qui nous donne d'être stable alors que nous avançons dans ce voyage ou que nous naviguons sur l'océan solennel de la vie. Et nous prions, Père, afin que, comme le poète l'a dit, le malheureux frère naufragé, voyant que nous sommes stables, nous maintenons l'équilibre. En voyant cela, il sera encouragé, ou il reprendra courage et essayera encore, sachant que si nous trébuchons ou tombons, la grande main de ce Dieu qui est entièrement suffisant est là pour nous aider. Sa grâce nous suffit. Notre prière maintenant, ô Dieu, c'est de commencer la nouvelle année ce matin au milieu des réjouissances, avec des hymnes et des chants, sachant que Dieu nous guidera tout au long du voyage de la vie et même au-delà du fleuve de la mort, jusqu'au pays promis. Nos yeux regardent au-delà des courants tumultueux du Jourdain ce matin, vers les champs de trèfle et les champs où poussent des arbres toujours verts. Et notre prière, ô Dieu, c'est que nos âmes saisissent cette vision et ne s'en détachent jamais. Un jour, quand nous arriverons à ce fleuve où il y a du courant, comme Élie autrefois, le manteau de Dieu frappera le courant de la mort et nous traverserons sans crainte. Accorde-le, Seigneur. Aide-nous alors que nous abordons ta parole. Ô Seigneur, je prie que ton Saint-Esprit oigne ces paroles. Nous sommes certainement incapables de les enseigner, parce que nous ne sommes pas des enseignants. Nous savons que la seule façon pour nous de la connaître, c'est que ce grand maître enseignant vienne et fasse sa demeure dans nos cœurs et qu'il domine sur nos esprits de telle sorte que, et sur nos pensées, au point où il nous interprétera les Saintes Écritures. Nous nous reposons strictement sur cela. Pense-y, ô Dieu. Oh, comme c'est merveilleux qu'un Père vivant comme celui-là, qui est l'essence même de l'éternité, puisse descendre vers des êtres mortels pour nous aider et nous apporter sa parole, la mettre dans notre bouche, dans notre cœur et dans nos oreilles, pour que nous puissions l'entendre et vivre, afin de nous racheter d'une malédiction dont nous ne sommes pas responsables, Père. Puisqu'elle a été causée par la race humaine, et nous sommes les descendants de ce premier couple, et nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Mais un Dieu juste et vivant sait que nous ne sommes pas responsables de cela. Et il a pourvu d'un moyen d'échapper, et nous a donné le privilège de venir, comme nous sommes heureux d'être venus à la maison du Père. Nous te prions maintenant de bénir notre Église ici. Frère Neville, notre brave pasteur, ton noble serviteur, nous prions pour nos diacres et nos administrateurs, afin que tu leur accordes de vivre la meilleure année de toute leur vie. Accorde-le, Seigneur, donne-leur une longue vie. Fortifie-les, Seigneur, ce sont tes serviteurs. Puissent-ils être toujours vaillants à leur poste de devoir. Bénis les laïcs, les membres, tes très chers enfants, qui fréquentent cette maison. Ô Dieu, nous réclamons l'âme de tous ceux qui franchissent le seuil de cette maison. Nous la réclamons pour toi, Seigneur. Aide-nous à être des ministres qui apporteront la parole d'une manière tellement simple et tellement vraie par le Saint-Esprit qu'ils aspireront à être comme toi, Seigneur. Accorde-le, guéris les malades et les affligés qui se présentent ici. Et accorde-le partout dans le monde, dans chaque maison de Dieu. Finalement, quand tu auras terminé, Seigneur, puissions-nous entrer dans tes portes et nous asseoir à la table d'accueil de Dieu pour manger et vivre ensemble pendant les âges éternels. D'ici là, puissions-nous avoir la santé et la force, le bonheur, la joie, la puissance et la vigueur. Et que les bénédictions du Saint-Esprit nous guident. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'ai apprécié le beau programme musical de ce matin. Je suis entré juste à temps. Je parlais à mes bons amis, frère Skaggs et frère Jean, qui est là-bas au fond. Et un autre frère là, à la porte. Je n'en ai entendu qu'une partie, mais c'était très beau à entendre au niveau de l'enregistrement. Vous appréciez tous le livre des Révélations, l'Apocalypse? Très bien. Je crois que c'est vraiment comme l'a dit ma petite fille, Sarah, qui est là au fond. C'est devenu le livre des Révolutions. Pour moi, on va juste de révolution en révolution. Vous savez, j'aurais aimé que nous puissions être là jusque vers mars ou avril, qu'une grande toile soit installée ici à l'arrière et que nous venions ici en journée, dessiner ces images et le schéma complet et juste avoir à les enrouler ou les dérouler comme les stores des fenêtres. Vous savez, comme j'ai toujours rêvé d'avoir un jour un tabernacle très spacieux quelque part, où je pourrais tendre la main et dérouler ce schéma et me déplacer d'un bout à l'autre de l'estrade, et les révélations et les interprétations que le Seigneur m'a données, et me servir d'un pointeur pour les parcourir et présenter tous ces âges. Une fois qu'on aurait terminé ceci, on le remonterait, et on ferait descendre le suivant comme ceci, et on commencerait sa présentation, et on enseignerait cela. Oh, ce serait comme un petit paradis, n'est-ce pas? De passer simplement tout l'hiver, juste à parcourir cela en présence du Seigneur. C'est si bon d'être seul avec lui. Vous savez, nous avions l'habitude de chanter un cantique. Il y a des moments où j'aime être tout seul avec Christ, mon Seigneur. Là, je peux lui dire tous mes problèmes seul à seul. Vous voyez, c'est ce qu'il faut faire. Ils avaient l'habitude de chanter. Roy Davis avait l'habitude de chanter un petit cantique, se retirer discrètement et prier avec Jésus. Tout semble indiquer, tout ce que vous regardez vous ramène toujours à Jésus-Christ, n'est-ce pas? Maintenant, quant aux âges de l'Église, dont nous avons parlé au cours de la dernière série de 8 jours de réunion, et hier soir, je pense que nous sommes arrivés au verset 2 du chapitre 4 de l'Apocalypse. Et je pense que vous étiez tous ici hier soir pour l'entendre. Ainsi donc, peut-être que j'avancerai d'un verset ou deux ce matin. Et ou jusqu'où le Seigneur conduira, je n'en sais rien. Ici, j'ai pris des notes jusqu'au verset 6 ou 7. Ce sont juste de petits éléments de contexte qui me permettront de me référer à différents passages des Écritures pour faire ressortir ces choses que j'ai étudiées hier. Ainsi donc, nous voyons, nous nous sommes arrêtés hier soir au verset 2, je crois, ou je pense que c'était au début du verset 3, et nous nous sommes arrêtés à la voix de la trompette, n'est-ce pas? La voix qui s'est fait entendre. Permettez-moi de tout relire maintenant afin que nous revenions là-dessus. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici, et je te ferai voir qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis sur ce trône, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel, ayant l'apparence de l'émeraude. Quelle belle, oh, quelle belle leçon! Et ce matin, juste avant de venir, j'ai lu jusqu'ici au verset 6. Je me suis dit, « Oh là là, je ne pourrais pas aller au-delà de ça, parce qu'il y a quelque chose dans ce verset 6 que j'aimerais que tout le monde comprenne très bien quand on traitera de ces êtres vivants. Ces êtres vivants qui sont ici sont définis différemment quand on se rapporte au texte original. L'un est présenté comme un genre d'être vivant, et les quatre autres êtres vivants le sont autrement. Le grec présente l'un comme un animal, dans le sens d'un animal sauvage. Ici, dans la version du roi Jacques, ce n'est pas bien traduit, car il ne s'agit pas de bêtes, mais des êtres vivants. Et ces êtres, dans leur essence, n'étaient ni des humains, ni des anges. Ce sont donc des êtres vivants qui avaient quatre faces et quatre... Oh là là, nous ramènerons cela à l'Évangile et nous reviendrons placer cela aujourd'hui aussi parfaitement que ça l'est ici. Et souvenez-vous, quatre est un nombre terrestre. Voyez, et là, c'est vraiment une belle leçon. Et je suis donc pas mal sûr que nous ne pourrons pas nous rendre jusque-là. Peut-être que oui, mais c'est si merveilleux. Alors, si le Seigneur le veut, et si nous sommes là, peut-être que dimanche prochain, nous pourrions y revenir, essayer d'avancer et voir si nous pouvons terminer ce chapitre 4 avant de partir. Nous ne savons pas encore exactement où nous irons en premier. Maintenant, nous voyons qu'après, après ces choses, après signifie, après que les âges de l'Église sont terminés, alors, Jean a été appelé à monter plus haut, monte ici, autrement dit, monte jusqu'ici. Il lui a montré tout ce qui allait se passer dans le monde de l'âge de l'Église. Et une fois les âges de l'Église terminés, nous voyons que Jean était un type de tous les vrais croyants que Christ appellera en haut. Pas vrai? L'appel a retenti. Monte ici. Nous avons vu que la voix qui lui a parlé était la voix comme celle d'une trompette, claire, distincte, et c'était la même voix qui lui avait parlé ici sur la terre. Vous voyez, tant qu'il était au milieu des sept chandeliers d'or, il parlait à, ou du milieu de, oh j'aime ça, parler du milieu des chandeliers. Vous voyez, il était au sein des chandeliers, et du milieu d'eux, il parlait à son Église. Puis, quand l'âge de l'Église s'est terminé, il a quitté la terre et est monté dans les cieux, et il a appelé ses rachetés à monter auprès de lui. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Oh, ça fait simplement bondir mon cœur. Et souvenez-vous, alors que nous apportons ces choses, j'aimerais surtout que les jeunes convertis, comme sœur Ina qui est ici, ou Ina plutôt, et son mari, Rodney, et sa femme, Charlie, et tous les autres, comprennent que ces choses, en fait, beaucoup d'entre vous, les jeunes, qui viennent de croire au Seigneur, qui ne sont pas encore allés bien loin sur ce chemin, qui l'ont juste goûté et ont vu qu'il est bon et plein de grâce. Maintenant, remarquez ceci, que ce que nous essayons de faire, par ces choses dont nous parlons, c'est d'affermir votre foi. que quand Dieu dit quelque chose, cela doit arriver, cela ne peut absolument pas faillir. Peu importe, on peut avoir l'impression que c'est à 1 000 000 de kilomètres et que ça ne pourra jamais arriver. Mais Dieu dirigera cela d'une manière ou d'une autre et fera en sorte que cela arrive. Et il le fait pour vous mettre à l'épreuve. Regardez ce qu'il a dit à Abraham. « Amène ton fils ici, au sommet de la montagne, et tue-le. » Après qu'il l'a entendu, pendant 25 ans, il a dit, « Amène-le ici, et tue-le. » Et comment ? « Je ferai de toi le père des nations. » Et Abraham était âgé de 100 ans, sa femme 90 ans, et c'était leur fils unique. Abraham avait environ 115 ans à ce moment-là. Alors il a dit, « Comment le deviendra-t-il ? Comment ? Comment est-ce possible? Si moi, un vieil homme, aussi vieux que je le suis, et j'ai attendu 25 ans, tu m'as fait la promesse quand j'avais 75 ans, et me voici à 100 ans. Sarah avait 65 ans, et maintenant, elle en a 90. Comment, après que nous avons eu cet enfant, tu m'avais dit autrefois, il y a 25 ans, alors que j'avais 75 ans, que j'aurais cet enfant, après avoir vécu avec Sarah toutes ces années, j'étais stérile. Et elle n'était pas féconde. Comment donc, alors? Pourtant, tu m'as rendu fertile, et tu l'as rendu fertile. Puis, tu nous as visités, et nous avons eu cet enfant, et nous l'avons élevé jusqu'à l'âge de 15 ans. Et tu as dit que c'est par cet enfant que tu ferais ceci, bénir les gens des nations, et toutes les nations du monde, et que tu ferais même de moi le père des gens des nations, que tu ferais de moi un père. Et que dans les âges à venir, Seigneur, tu ferais de moi, par cet enfant, le père de toutes les nations qu'il y a sous les cieux. De cet enfant viendrait un Rédempteur, et c'est par ce Rédempteur que tu rachèterais toute la race humaine. Comment le feras-tu, Seigneur? Ça, ce n'était pas la pensée d'Abraham. Ce n'était pas cela qui préoccupait Abraham, l'obéissance. Il n'a pas dit, « Comment le feras-tu? Ce n'est pas mon affaire. » Tu l'as dit, donc je sais que ta parole est vraie. Si tu as pu tenir ta parole envers moi et me le montrer quand j'avais 75 ans et que tu m'as appelé et m'as dit, « Sépare-toi et va dans un pays étranger. Je suis dans ce pays depuis 25 ans. À mon départ, j'étais un vieil homme qui vivait avec la femme avec qui je suis depuis sa jeunesse et qui est ma demi-sœur. Et puis, je vis tout ce temps et tu m'as donné cet enfant que tu m'avais promis. Je l'ai reçu comme quelqu'un d'entre les morts. Et si tu dis de le tuer, tu es capable de le ressusciter d'entre les morts à nouveau. Oh là là, voilà la bonne approche. C'est ça. Et il l'a fait. Et dès qu'il a pleinement obéi à Dieu et qu'il a relevé les cheveux d'Isaac de son visage, il a sorti le couteau pour tuer son propre fils, son fils unique. Dieu montrait un modèle. Il nous le montrait. Pourquoi l'a-t-il fait? Il n'y était pas obligé. Mais il l'a fait pour que vous et moi, nous puissions regarder ces choses en ce jour sombre et redoutable, où le mal a tant envahi le cœur des hommes, afin que nous sachions que Dieu tient sa promesse. Peu importe combien cela peut sembler ne pas être à la hauteur, combien cela pourrait être impossible. Dieu reste toujours Dieu et il tient toutes les promesses qu'il a faites. C'est ce que j'essaie de vous dire quand vient le moment du service de guérison. Vous venez ici et vous dites, « Je suis malade. » Et vous, sans aucun doute, vous êtes malade. Mais Dieu tient sa promesse. Alors, il descendra. Eh bien, voyez, il a fait l'expiation ici pour montrer qu'il vous guérirait. Voilà ce qu'il a fait. Alors, la seule chose qu'il vous demande de faire, c'est de croire cela, de vous en tenir à cela, comme l'a fait Abraham. Eh bien, le médecin a dit qu'il ne me reste plus qu'un jour à vivre. Peu m'importe, c'est bien, c'est tout ce que cet homme sait, c'est au mieux de sa connaissance. Comment Abraham allait-il recevoir cet enfant après l'avoir déjà allongé là-haut, puisque la parole de Dieu lui disait d'aller tuer le garçon? Comment allait-il le faire? Là n'est pas la question. Dieu avait dit de le faire et cela réglait la question. Comment pourrais-je me rétablir quand le médecin dit que je ne peux pas me rétablir? Ce n'est pas à moi de remettre cela en question, c'est de prendre la parole de Dieu aux mains. Dès lors qu'il vous est révélé que vous allez vous rétablir, alors vous n'avez qu'à garder à l'esprit que vous vous rétablirez. Rien ne peut vous empêcher de vous rétablir. C'est vrai. Voyez, alors, quand Abraham a obéi entièrement, comment allait-il le faire? Les derniers instants, voici venus les 5 dernières minutes, les 3 dernières minutes, les deux dernières minutes, la dernière minute, les 30 dernières secondes, puis la dernière seconde, alors que la main était déjà levée pour donner la mort au garçon. Dieu a dit, arrête sur le champ, arrête sur le champ. Je vois que tu me fais vraiment confiance. Eh bien, Abraham, je l'ai fait juste pour montrer au Branham Tabernacle, dans les jours à venir, ce qu'il en est. Voyez, qu'ils doivent me faire confiance. Ils ne doivent pas du tout douter de moi. Ils doivent me faire confiance. À peu près au même moment, un sacrifice est apparu. Il ne l'avait pas fait en vain. Non, il ne l'avait pas fait en vain. Car au même instant, un agneau a bêlé, un petit bélier, qui était retenu par les cornes, là, dans cette région sauvage. Que de fois nous avons prêché là-dessus. Comment ce bélier s'est-il retrouvé là? Comment, parmi tous ces animaux sauvages, à des centaines de kilomètres de la civilisation, parmi les lions, les chacals, les loups et toutes sortes d'animaux sauvages qui étaient là-bas, tout là-haut, au sommet de la montagne, où il n'y a pas d'eau ni d'herbe. Que faisait-il là? Dieu l'avait créé. Et l'avait simplement placé là, et de le voir dans ces jours où nous vivons. Bon, ce matin, je vais devoir recourir à beaucoup de choses personnelles pour illustrer cela, pour exprimer ce que j'aimerais dire. C'est pour cela que je présente un contexte comme je le fais, avant de m'y attaquer. Je veux que vous compreniez que ces choses qui semblent personnelles, je ne les dis pas dans le but de viser qui que ce soit. Elles sont évoquées uniquement à titre d'illustration, afin que votre foi repose strictement sur la foi qui est en Christ, et que vous puissiez vous reposer sur sa promesse. En effet, Dieu tient sa promesse de manière aussi parfaite que ça peut l'être. Il nous le montre. Et regardez, ce même Jéhovah Jireh, comme l'a appelé Abraham, ce qui signifie en hébreu, Dieu se pourvoira lui-même du sacrifice. Dieu peut le faire. Il s'est pourvu d'un moyen. S'il a dit, il a dit à Noé, vous dites, eh bien, c'était juste pour Abraham. Non, il l'a dit tout au long des âges, et il continue de le dire. Autrefois, il a dit à Noé, comme nous le verrons ce matin, là, il va pleuvoir. Or, il n'y avait pas jamais eu de nuages dans le ciel. Le plus grand cours d'eau était un ruisseau dont Dieu se servait pour irriguer la terre. Une petite source quelque part. C'était le plus grand cours d'eau qu'il y avait. Là, les gens disaient, « Comment l'eau pourrait-elle descendre de là-haut? Montrez-moi où elle se trouve là-haut, sous ce soleil brûlant. Il n'y en a pas du tout là-haut. Si Dieu a dit, « Construisez une arche, l'eau arrive, mon devoir, c'est de construire l'arche et de me préparer, parce qu'elle arrivera. » Il est Jéhovah Jireh. Il peut créer de l'eau là-haut. Et tout ce qu'il a fait, c'est de laisser l'homme, cet être insensé et stupide, accomplir exactement, par la science, ce qu'il savait qui arriverait. Dieu n'a jamais détruit le monde. C'est l'homme qui détruit le monde. Dieu ne détruit rien. Dieu essaye de tout préserver. L'homme se détruit par sa connaissance, comme il l'a fait dans le jardin d'Éden, au sujet de l'arbre et tout. Ainsi donc, des fanatiques s'étaient emparés de l'énergie atomique. À un moment donné, ils savaient cela. Ils étaient capables de l'utiliser à cette époque, parce qu'ils pouvaient faire des choses avec cela que nous n'avons encore jamais apprises. Nous ne sommes pas encore aussi avancés. Il faudra peut-être encore 3 ou 4 ans, ou plus, avant que nous puissions le faire. Père, ce qu'ils faisaient. Ils ont construit les pyramides, le sphinx, et ainsi de suite. Nous ne pourrions jamais le faire. Nous ne pourrions pas reproduire cela. Il n'y a aucun moyen pour nous de le faire, à moins d'avoir une puissance atomique. La puissance de l'essence, la puissance électrique, elle ne soulèverait pas l'un de ces gros blocs de pierre. Elle ne les soulèverait pas du sol. Et il y en a qui ont la hauteur d'un pâté de maison, qui sont très hauts et qui pèsent 1 milliard de tonnes. Comment les ont-ils fait monter là-haut? Vous voyez, ils s'y connaissaient. Quelqu'un a lancé une de ces bombes atomiques. Ils l'ont fait exploser. Et elle est apparue dans l'écran de quelqu'un d'autre à cette époque-là. Car ce qui arriva du temps de Noé, ce qui arriva, ce genre de civilisation, ce genre de personne intelligente, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Une répétition de ce qui est arrivé. Voyez, ici, il n'y a pas longtemps, on a déterré un aqueduc moderne. C'était ici au Mexique, datant d'avant le déluge antédiluvien. Avez-vous vu cela? C'était dans le journal. C'était un aqueduc moderne, exactement comme ce que nous avons aujourd'hui, qui s'était enfoncé très profondément dans le sol. Quelque chose d'atomique l'avait recouvert. Cela avait tout simplement explosé et l'avait enseveli comme ça. Voyez ? Donc, ce qui arriva du temps de Noé, des hommes intelligents, avec leur puissance atomique et tout, pouvaient construire des pyramides et des sphinx, et ainsi de suite. Ce qui arriva en ce jour-là arrivera de même. Mais l'œuvre doit être abrégée en ce jour-ci, parce qu'il doit y avoir des gens qui partiront dans l'enlèvement, comme Enoch. Il y a des gens qui seront transportés. Nous faisons partie de cette catégorie-là ce matin. Les gens qui seront transportés, comme Noé l'a été lors du déluge. Mais souvenez-vous, avant... N'oubliez pas ceci. Avant qu'une seule goutte de pluie tombe, avant qu'il y ait quoi que ce soit dans le ciel, avant que Noé ait terminé l'arche, Enoch a été emporté à la maison. Enoch a été enlevé sans connaître la mort. Il s'est simplement mis à marcher un jour et la gravitation a perdu son emprise sur lui. Et il s'est retrouvé avec un pied un peu plus haut, puis l'autre pied un peu plus haut et l'autre encore un peu plus haut. Et avant longtemps, il a dit « Adieu, le monde ». Il est simplement monté dans la gloire en marchant. Et quand Noé s'est mis à chercher Enoch, il ne le trouvait nulle part. Il a cherché Enoch et il ne savait pas où il était allé. Alors il a dit, « Il est temps de construire l'arche maintenant. » Vous voyez ? Alors, il s'est mis à construire cette arche qui devait transporter ce reste. C'est la même chose qui se produit ici même. L'Église a été enlevée au ciel, et comme nous l'avons vu hier soir, Jean est maintenant enlevé avec elle comme un type des ressuscités. Et nous avons vu que cette même voix qui l'a sommé de regarder en arrière sur la terre, c'était la même voix qui l'avait sommé de monter. Oh, chaque chrétien, cette voix même, Charlie, qui t'a appelé un jour dans le Kentucky et t'a dit « Fais demi-tour », c'est la même voix qui te dira « Monte ». N'en es-tu pas heureux, frère Evans ? La voix qui a dit « Fais demi-tour », c'est la même voix qui a dit « Monte! Oh là là! Voilà! Quel appel! Quelle réalité! Claire, distincte, comme une trompette! Fais demi-tour! Serre-moi! Monte où je suis! Là, nous avons vu celui qui représentait ceux qui sont morts. Moïse représentait les saints qui étaient morts, les ressuscités. Élie et son groupe, au dernier jour, il était là avec le groupe de ceux qui seraient dans l'enlèvement. Tous étaient devant le Seigneur Jésus. Jean a révélé que Jésus leur avait dit qu'il ne mourrait pas, que leur importait s'il vivait jusqu'à ce qu'il voie sa venue. Et des disciples ont fait courir une rumeur. Oh, j'aimerais vraiment, vraiment pouvoir dire à l'Église des choses très profondes maintenant, pendant quelques minutes. Chacun sait. Et chacun a une relation personnelle avec Dieu. C'est une affaire individuelle. Ces choses de l'esprit qui vous transportent en des lieux dont vous n'oseriez même pas parler. J'ai remarqué ceci dans mon humble petit ministère. C'est qu'il m'est arrivé bien des fois de dire quelque chose sans savoir pourquoi je le disais. Et cela ne semblait pas juste. Et pourtant, quelqu'un faisait une remarque. Mais j'observais cela. Et cette chose arrivait aussi parfaitement qu'il avait été dit qu'elle arriverait. Dieu fera en sorte que cela arrive. Quand je veux simplement dire quelque chose, je dis, « Eh bien, maintenant, attendez un instant. Ce monsieur un tel, ceci arrivera comme ceci. Bon, cela devra arriver comme cela. » Eh bien, en réalité, je ne sais pas pourquoi je le dis. Et avant longtemps, cela arrive exactement ainsi. Dieu l'accomplit. Maintenant, quand ses disciples ont dit, « Oh, Jésus a dit que cet homme ne mourra pas. » Jésus n'a jamais dit cela. Jésus a dit, « Que vous importe s'il vit jusqu'à ce que je vienne. » Mais voyant que les disciples ont fait courir une rumeur là-dessus, alors Jésus est descendu, a pris Jean, l'a fait monter et lui a montré l'avant-première de tout cela. Il a vu l'avant-première de la venue du Seigneur. Jean a vu l'Église, il a vu la fin de l'âge de l'Église, il a vu la fin des Juifs, il a vu la seconde venue, il a vu l'ordre dans sa totalité. Et regardez ce que Dieu a dû faire. Il l'a fait bouillir dans de l'huile là-bas pendant environ 24 heures pour qu'il voie qu'il était divin, que l'Esprit divin avait oint là l'âme, cet extérieur, ce terrestre, ou peu importe comment vous appelez ça, la chair humaine, l'avait tant imprégné du divin que d'être dans de l'huile bouillante pendant 24 heures ne l'a même pas roussi. Cherchez à faire sortir le Saint-Esprit de quelqu'un en le faisant bouillir. Vous ne pouvez pas le faire. Alors, ils l'ont exilé sur l'île de Patmos, où il a rédigé le livre. Puis, il est revenu et a prêché pendant plusieurs années. Bien sûr, à ce moment-là, il avait une mauvaise réputation. Il était un diseur de bonne aventure. Il était un sorcier. Combien savent que Jean avait été traité de sorcier? Absolument. C'était aussi la même chose pour Jésus. Voyez, vous voyez, le monde ne sait rien de ces choses. Il lisait dans la pensée des gens. Voyez, les gens disaient, son degré de sorcellerie était si élevé qu'il a ensorcelé l'huile, que l'huile n'avait pas pu le brûler, parce qu'il l'avait ensorcelé. Tout simplement parce qu'il n'était pas d'accord avec leurs idées catholiques. C'est tout. C'était un serviteur de Dieu qui, humble, et qui avait une petite mission là-bas dont il s'occupait. Il ne tolérait pas leur tralala, et Dieu l'a donc préservé et gardé. Il a fait pareil pour Saint Martin et Irénée, et aussi tout au long des âges. Et il fait la même chose aujourd'hui. Et ça continue encore. Maintenant, n'oubliez jamais ceci, que Dieu a promis de grandes secousses et de grandes œuvres puissantes. Bon, écrivez ceci dans les notes que vous prenez. Voyez, voyez, ce que l'homme appelle grand et puissant, Dieu l'appelle folie. Et ce que l'homme appelle folie, Dieu l'appelle grand. Ne l'oubliez pas, voyez, n'oubliez pas cela. Cela vous aidera dans les années à venir, parce que nous nous attendons continuellement à quelque chose de plus grand. Et nous recevons continuellement des choses plus grandes. Mais les gens du monde n'en savent rien. Ils n'en savaient rien non plus au jour de Noé. Ils n'en savaient rien au jour de Jean, au jour de Jésus, au jour des apôtres, au jour d'Irénée. À aucun de ces jours, ils n'en ont jamais rien su. Même Jeanne d'Arc, c'était une sainte petite femme. Alors qu'elle n'était qu'une jeune fille, Dieu lui a parlé dans des visions et un ange lui a parlé. Savez-vous ce que l'Église catholique a dit? C'est une sorcière. Ils l'ont mise sur le bûcher et l'ont brûlée jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est ce qu'ont fait les prêtres catholiques. Ils l'ont tuée, condamnée à mort comme sorcière. Et Jeanne d'Arc est morte comme une sorcière. Près de 200 ans plus tard, ils ont découvert qu'elle n'était pas une sorcière. Elle était une disciple de Christ. Ils ont fait la même chose à tous les saints. Jésus a dit, « Lequel d'entre vous, vos pères, n'ont-ils pas persécuté? Lequel des prophètes qui sont venus n'ont-ils pas rejeté? » Il a dit, « Vous, murailles blanchies. » Il a dit, « Vous, vous allez et vous ornez les tombeaux des prophètes. Mais c'est vous qui les avez mis dedans. » Oh là là, là là. Voyez, il n'y est pas allé de main morte avec eux. Il le leur a dit, « Race de serpents, a dit Jean, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ne vous mettez pas à dire que vous avez Abraham pour père. Nous appartenons à telle et telle grande organisation. Êtes-vous chrétien? Oh, je suis méthodiste, je suis presbytérien, je suis pentecôtiste. Ça n'a rien à y voir du tout. Ça n'a rien à y voir. Pas plus que la neige. À quoi que ce soit à voir avec le soleil, voyez? Ça n'a rien à y voir. Si vous êtes chrétien, vous êtes un serviteur de Dieu, né de nouveau. Bon, maintenant, quand Jean est venu, nous l'avons vu hier soir, maintenant, souvenez-vous, quand vous arrivez à ceci, c'est pour vous donner le contexte de ceci que j'en ai parlé. Souvenez-vous, le monde est en train de recevoir la plus forte secousse qu'il ait jamais eue, en ce moment même. Le monde ecclésiastique. Maintenant, souvenez-vous, sans doute qu'au jour de Jean, au jour de Jésus, il y avait de grandes fêtes et de grands orateurs en leur jour, d'éminents intellectuels qui attiraient des dizaines de milliers de gens. Que pouvait-il arriver si Caïphe convoquait une réunion? Il attirait tout Jérusalem, il rassemblait tout Israël d'un bout à l'autre, et tous disaient, Oh, eh bien, si Caïphe dit telle et telle chose, ce sera formidable. Oh, croyez-vous les Écritures, rabbin, révérend, docteur, évêque? Croyez-vous les Écritures? Certainement, je crois les Écritures. Je suis un éminent érudit. Très bien. Bon, la Bible a dit ici qu'il viendra un temps où toutes les montagnes sauteront comme de petits béliers. Toutes les feuilles taperont des mains. Tous les lieux élevés seront abaissés et aplanis. Tous les lieux bas seront relevés et élevés. Et c'est la voix de celui qui crie dans le désert qui produira cela. Croyez-vous cela, rabbin, révérend, docteur, pasteur? Certainement, j'y crois. Comment cela arrivera-t-il? Oh, un de ces jours, Dieu enverra un puissant homme sur la terre. Oh, il sera grand. Ce sera la voix de celui qui crie dans le désert. Ou il sera le précurseur de la venue du Messie. Et quand il viendra, il n'y a aucun doute dans mon esprit là-dessus. Il descendra du ciel et viendra au temple. Il viendra directement ici au temple et dira, « Maintenant, nous allons nous emparer de tous les Romains et les battre à mort. C'est tout. Nous allons mettre tous les Romains en déroute. » Et ensuite, il dira, « Descends au Messie. » Et le Messie descendra. Et de toutes nos serpes, nous forgerons des... Ou de nos épées, nous forgerons des hoyaux et des serpes. Et il n'y aura plus de guerre. Ah oui, c'était là leur interprétation. Mais que s'est-il passé quand cela s'est accompli? Qu'est-ce qui est arrivé? Il n'y a pas eu de signe dans le ciel. Ils n'en ont jamais vu un. Il y en avait un. Mais ils ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont pas vu. Voyez, à quel moment toutes les montagnes ont-elles sauté comme de petits béliers? À quel moment les lieux élevés ont-ils été abaissés et les lieux bas ont-ils été relevés? Un vieux prédicateur au visage hirsute est sorti du désert et il ne connaissait même pas son alphabet. Selon les récits historiques, il s'était retiré au désert à l'âge de 9 ans et il n'en est jamais ressorti avant l'âge de 30 ans. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les sauterelles sont des locustes au corps allongé. On en mange tout le temps. Eh bien, vous pouvez les acheter ici même dans les... Ne pensez pas que c'est mauvais, parce que vous pouvez en acheter ici même dans les supermarchés, si vous en voulez. Des bourdons, des abeilles, des sauterelles, des serpents à sonnette, tout ce que vous voulez, vous voyez? Donc, il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Quel régime! Mais il était gardé par la puissance de Dieu. Il ne portait pas de vêtements au col retourné, comme quelqu'un l'a dit hier soir, frère Parnell ou quelqu'un d'autre. Il ne portait pas de redingote et tout le reste. Il est sorti du désert, enveloppé d'une grande peau de mouton. Comme je l'ai dit, peut-être nous devons prendre un bain chaque jour. Peut-être qu'il n'en prenait qu'un tous les 3 ou 4 mois. Là-bas, dans le désert. Je ne sais pas. Il n'avait rien pour attirer le regard. Il n'avait pas de chair. Il n'allait pas dans les grandes villes pour faire de grandes campagnes. Il se tenait là-bas, sur les rives du Jourdain, avait de la boue jusqu'aux genoux et disait, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» C'est à ce moment-là que les lieux élevés ont été abaissés, voyez, et que les lieux bas ont été relevés. Ah oui. Oui, monsieur. Puis, il s'attendait bien sûr à ce que le Messie descende avec des anges et tout, et s'installe là, sous le dais, dans le temple qu'ils avaient construit pour l'accueillir, comme les gigantesques bâtiments que nous érigeons de nos jours, dans différents pays et tout, voyez. Et quand est-il venu? Il a contourné chacune de ces synagogues, chacune de ces organisations, pour naître dans une étable. On l'a contraint à le faire. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On le contraint à faire des choses. On le contraint à le faire. On le contraint à être interdénominationnel parce que son message ne corrobore pas la dénomination. Aujourd'hui, son message que prêchent ses ministres est interdénominationnel parce que les dénominations l'ont mise à la porte. C'est ce que dit la Bible. Il se trouvait à l'extérieur, frappant et essayant d'entrer. Voyez, dans sa propre église. Voilà où on en est. Vous voyez, c'est la même chose aujourd'hui. Alors, souvenez-vous, ce qui semble grand pour l'homme est petit aux yeux de Dieu. C'est pour cela qu'il n'est pas nécessaire qu'on nous couvre de fleurs. Au retour de Dieu, au retour de Jésus, on sera surpris de voir cette petite blanchisseuse du bout de la ruelle. Ah oui, on sera surpris de voir cet homme qui ne dit jamais un mot, qui garde ses secrets pour lui et qui marche humblement devant Dieu, on sera surpris. Cela assure. J'ai prêché il n'y a pas longtemps au sujet du jugement, les surprises au jugement. On ne sera pas surpris de voir le contrebandier d'alcool là-bas. Lui, il sait qu'il sera là. Certainement, on ne sera pas surpris d'y voir le menteur, l'adultère et tout, là-bas, pas du tout. Mais la surprise, ce sera, et la déception, ce sera du côté de ceux qui pensaient y entrer. Ah oui, oui, et qui seront rejetés. Ceux qui disaient, « Eh bien, attendez un instant, ma mère était membre de cette église, mon père était membre de cette église, mon grand-père et ma grand-mère. J'y ai été membre toute ma vie. Retirez-vous de moi, vous, ouvriers d'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Regardez au jour du brave Siméon, un homme inconnu, sans réputation. La Bible ne nous dit rien à son sujet, mais la Bible dit il lui était révélé par le Saint-Esprit. Voilà, vous y êtes. Qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Puis, considérez qui était Jean-Baptiste, un assez curieux personnage. Un homme des bois, du fin fond des bois. Cela lui avait été révélé. Il est venu prêcher le message. Regardez ça. Qui était la petite Anne, la petite Vierge, Marie, là-bas dans la ville de Nazareth, aussi méchante que Jeffersonville, où le péché et tout le reste abondaient. Mais elle était restée pure, parce qu'elle savait que le Messie viendrait un de ces jours. Voyez, Joseph, un charpentier, avait perdu sa femme, et il courtisait cette jeune fille. C'est dans ces circonstances que le Saint-Esprit est venu. Par la suite, les gens du monde sont venus et ont terni sa réputation, du genre exalté, pentecôtiste. Vous voyez, ils ont terni la réputation de ces choses. Eh bien, ça, elle, cet enfant est né hors des liens sacrés du mariage. Vous voyez, il croyait cela, et ça semblait être le cas. Mais Dieu le fait pour aveugler les yeux des sages et des intelligents, et le révèle aux enfants qui sont disposés à apprendre. J'espère que vous avez suffisamment de contexte pour le moment où je frapperai un point dans quelques instants. Laissez-moi vous montrer ceci. Vous voyez cette huile? Bon, ce que je vous ai dit, ce contexte, pour que vous voyez que ce n'est pas l'homme, mais Dieu, je vais me référer à ceci. Très bien. Donc, « monte ici », avait dit la voix. Et quand il a ouvert, il a entendu le son d'une trompette. Et là, aussitôt, Jean a été ravi en esprit. Et dès qu'il est entré dans l'esprit, il s'est mis à voir des choses. Vous commencez à voir des choses quand vous entrez dans l'esprit. Premièrement, il faut entrer dans l'esprit. Pas vrai? Maintenant, supposons que vous alliez à un match de baseball et que vous disiez « J'aime vraiment le baseball ». Ah oui. Et vous vous procurez un siège au premier rang, dans une loge, pour regarder jouer les Yankees ou les Bulldogs ou qui que ce soit d'autre. Et ils livrent un grand match sur le terrain. Votre équipe est sur le point de perdre. Et tout à coup, le Babe Ruth, des temps modernes, fait tourner sa batte comme ceci et dit « Vous voyez, très loin là-bas, il y a trois joueurs au but. Vlan !» Et il frappe la balle si loin qu'on la perd de vue. Il retire sa casquette et s'en sert pour s'éventer. Il marche jusqu'au premier but. Regarde tous les joueurs autour de lui, il va au deuxième but et serre la main du joueur qui est au deuxième but. Puis marche et rentre tranquillement jusqu'au marbre. Fait une révérence. Eh bien, oh là 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 là, les cris, les sauts, les hurlements, les cris de « Hurrah !» Eh bien, j'ai personnellement vu les gens prendre ces... Vous souvenez-vous des anciens chapeaux de paille? Je suis allé à un match de baseball un jour, et j'ai vu un joueur frapper un coup de circuit. Il y avait devant moi un spectateur qui portait un chapeau de paille. Il était si excité. Il a saisi son chapeau et l'a enfoncé sur sa tête. C'est devenu comme une espèce de collet comme ceci. Quand le dessus est parti, eh bien, il s'en donnait à cœur joie. Il était si emporté qu'il ne savait plus ce qu'il faisait. Il ne faisait que donner des coups de pied, pousser des cris, des hurrahs et sauter. Eh bien là, vous savez ce que j'en pense. Il avait certainement... Il aimait le baseball. C'était un passionné de baseball, comme on pourrait être un accro à la cigarette ou un accro au whisky. Je suis un passionné de Jésus. Oui. J'aime vraiment ça. Si vous devenez un passionné de Jésus, voyez-vous, un passionné de quelque chose, alors Pourriez-vous imaginer que ce spectateur dise « Oh, je suis un vrai passionné de baseball » et alors que son équipe est sur le point de perdre, on voit ce batteur s'avancer et faire gagner le match de cette manière. Et il regarde autour de lui et dit « Oui, je pense que c'était très bien. » Ah oui. Puis dire qu'il aime le baseball ? Oh, c'est quelque chose, ça ! Vous lui diriez, « Eh bien, vous n'aimez pas ça, n'est-ce pas ? Quelque chose cloche chez vous. » Tout bon passionné de baseball dirait, « Qu'est-ce qui ne va pas chez ce gars-là ? Il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Regardez-le, assis là. C'est vraiment très... Faites le rapprochement, là, vous voyez ? Oh, quand vous êtes un passionné de Jésus et que vous sentez le Saint-Esprit pénétrer dans ses paroles... Alors quelque chose s'écrie. Oh, vous délirez. J'espère que cet homme me pardonnera. Il est assis tout près, ici. Ce grand et costaud monsieur, aux cheveux noirs, qui est assis ici. Un soir, il était debout là-bas, dans le vestibule. Et quelqu'un a dit quelque chose pour tenter de l'aider. Vous savez, cela l'a en quelque sorte béni. Et le pauvre passait des moments difficiles. Je savais que sa femme l'avait quitté et lui demandait le divorce. Parce qu'il aimait le Seigneur Jésus, c'est vrai. Et quelqu'un a dit quelque chose au sujet de Jésus, vous savez. Et lui, il était un de ses passionnés. Cet homme, il avait été à la guerre et s'était fait tirer dessus et tout. J'avais de la peine pour lui. Il en était revenu avec ses enfants et sa femme. Puis il avait promis au Seigneur qu'il le servirait. Et dès que le Seigneur a commencé à le bénir et qu'il a mis sa vie en ordre avec Dieu, sa femme a fait volte-face, a demandé le divorce et l'a quitté. Elle l'a abandonné à son sort. Mais il était toujours un passionné. Alors qu'il était là, un soir, quelqu'un a dit quelque chose au sujet de Jésus, quelque chose sur le fait qu'il est si grand, quelque chose comme ça. Et il a dit « Oh, gloire !» Il a brusquement étendu ses bras et son poing a traversé le mur comme ça. Il n'en était même pas conscient. Son poing était resté planté dans le mur. Il a dit, « Frère Bill, je payerai pour ça. » Je pense que Frère Wood est venu et a réparé cela. Il l'a remplacé. Ça ne nous a pas dérangé, Frère Ben. Nous étions simplement heureux que tu sois un passionné. Voyez, quand le Saint-Esprit fait quelque chose pour vous, vous ne pouvez tout simplement pas rester tranquille. Quelque chose bouillonne en vous. Amen. Oui, quelque chose s'empare de vous, un passionné de Christ. Quand vous aimez le Seigneur, il y a en vous quelque chose qui s'élance, qui s'accroche, qui a faim et soif. Jésus a dit, « Heureux sont-ils, car ils seront rassasiés. Heureux sont-ils d'avoir simplement soif, que vous l'ayez ou pas. Combien veulent plus de Dieu ?» Très bien. Eh bien, parce que vous voulez plus de Dieu, vous êtes béni simplement d'être comme ça. Si vous ne l'avez pas, vous êtes néanmoins béni. Heureux ceux qui ont faim et soif. Rien que d'avoir faim et soif, vous êtes béni. Vous êtes béni par le simple fait de le vouloir. En effet, bon nombre de gens n'en veulent pas. Vous souvenez-vous de ma prédication l'autre soir? Vous voyez, c'est comme ce sot qui avait conservé l'emballage et jeté le cadeau. Voyez, ne prenez pas l'emballage. Prenez le cadeau, très bien. Donc, aussitôt, en esprit, et voici un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Maintenant, remarquez, un peu plus tard, où nous l'avons vu hier soir, je crois, que sur ce trône, nous voyons que dans un premier temps, il n'y avait rien sur le trône. Et maintenant, il y a quelqu'un sur le trône. Cela montre donc que Jésus était monté avec son Église dans la gloire, et qu'il était assis sur son propre trône. Assis sur le trône. Ça, c'est après l'âge de l'Église. Bon, maintenant, nous allons y venir dans quelques instants. Or, vous dites, eh bien, où est son trône aujourd'hui? Bon, Fresneville, si j'oublie d'en parler, demande-moi au bout d'un certain temps, où est son trône aujourd'hui? Je pense que je vais y venir un peu plus loin. Où se trouve son trône maintenant? S'il n'est pas sur son trône en ce moment. Il n'est pas sur son trône en ce moment. Non, monsieur. Très bien, maintenant. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel, ayant l'apparence semblable à de l'émeraude. Bon, prenons maintenant le verset 3 pour commencer. Ainsi donc, la pierre de jaspe, celui qui était assis sur le trône avait l'aspect... Autrement dit, quand on le regardait, il était d'une telle splendeur, d'une telle beauté. Oh, je désire le voir. Pas vous ? Un jour, je me souviens de Sir Cadell, Sir Howard Cadell. Je pense que beaucoup d'entre vous se souviennent d'elle. J'habitais de l'autre côté de la rue, là, et ma femme, qui est assise là maintenant, se souvient qu'elle avait froid dans la pièce. Je m'étais levé et j'avais une espèce de vieux petit. C'était un poêle à bois, doté d'un. Nous faisions cuire notre pain dans le four, au niveau du tuyau. Il faisait vraiment froid et le vent soufflait. C'était en hiver. Il y avait de la neige au sol. Le vent entrait par la cheminée et je n'arrivais pas à allumer cela, même si ma vie en dépendait. Et j'étais vraiment dans tous mes états à cause de cela. J'ai ajouté du bois et ça s'est encore éteint. Billy avait froid et elle avait froid. Et j'essayais de faire un feu. Puis, j'ai allumé la radio. Quelques minutes auparavant, ça avait commencé à se réchauffer. Ça s'était allumé. Et Sir Cadell chantait. Quand j'atteindrai ce pays, au lointain rivage, je veux voir Jésus. Pas vous ? Oh là là ! Je me suis assis au beau milieu de la pièce. Et assis là, je me suis mis à pleurer. Vous savez combien elle pouvait chanter de cette voix très douce d'oiseau moqueur. J'aimerais l'entendre chanter quand je traverserai la frontière dans l'au-delà. Elle disait, « Je veux voir Jésus, pas vous !» Je me suis dit, « Oh Dieu, oui, je veux le voir un jour. » Quand les fleurs auront toutes été emportées par le courant, je veux voir Jésus. Combien le voir sur son trône, sa beauté, sa splendeur. Et si je désire me tenir où Jean se tenait, afin de pouvoir simplement le contempler. Il y a quelque temps, là-bas, du temps de l'esclavage. Je dis ceci pour mes amis de couleur qui sont ici ce matin. Il y avait un vieil homme de couleur et il qui était allé à un petit endroit où il avait l'habitude d'aller. Et ça se passait aussi dans le Kentucky autrefois. Des rencontres pour chanter. Peut-être que Maman Cox et les autres se souviennent de l'époque où on allait chanter, vous savez, dans des maisons. Et on jouait de l'orgue, et les jeunes et tous les autres chantaient. Ça se faisait ici, à Utica, et un peu partout à la campagne. Maintenant, les gens apportent un flacon de whisky dans des soirées de rock'n'roll. Mais en ce temps-là, on chantait des cantiques. Lors d'une de ces réunions de chant, un vieil homme de couleur avait été sauvé, et le Seigneur l'a appelé à prêcher. Le lendemain, il s'est mis à en parler aux autres esclaves de la plantation. Il a dit, « Le Seigneur m'a sauvé hier soir, et m'a appelé à prêcher à mes frères. » Finalement, c'est arrivé aux oreilles du propriétaire du ranch, ou plutôt du propriétaire de la plantation. Il l'a appelé et lui a dit, « Sambo, je veux que tu viennes ici. » Il a dit, « Viens dans mon bureau. » Il a dit, « Oui, monsieur. » Et il s'est rendu au bureau. Il a dit, « Qu'est-ce que j'entends dire que tu réponds parmi les esclaves, là-bas, parmi ces gens, mes ouvriers, mes esclaves, que le Seigneur t'a affranchi ?» Il a dit, « Oui, monsieur. » Il a dit, « Patron, je suis votre esclave. » Il a dit, « C'est avec votre argent que j'ai été acheté. » Mais il a dit, « Mais la manière dont Dieu m'a franchi hier soir, Jésus m'a franchi d'une vie de péché et de honte, d'une vie de mort. Il m'en a franchi. » Il a dit, « Sambo, es-tu vraiment sérieux ?» Il a dit, « Oui, je le suis. » Il a dit, « Je les ai entendus dire que tu allais commencer à prêcher ici, parmi les tiens, dans les plantations et tout. » Il a dit, « Oui, monsieur. » Il a dit, « C'est ce que j'ai l'intention de faire, de prêcher cet évangile au mien. » Il a dit, « Tu es vraiment sérieux, Sambo ?» Il a dit, « Je suis vraiment sérieux. » Il a dit, « Viens. » Allons au palais de justice. Je vais aussi t'affranchir. Je t'affranchis. Tu es affranchi de tout esclavage. Je t'avais acheté, tu es à moi. Mais je t'affranchis pour que tu puisses prêcher l'évangile au tien. Il est allé signer l'émancipation ou la proclamation et il était affranchi. On ne pouvait plus le vendre comme esclave. Il était un homme affranchi pour prêcher l'évangile. Il a prêché pendant des années parmi ses frères. Beaucoup de blancs ont été convertis sous son ministère. Un jour, l'heure de la mort a sonné pour le vieil homme. Il avait prêché pendant 30 ou 40 ans ou plus. Et quand l'heure de sa mort est venue, il était couché dans la chambre. Beaucoup de ses frères blonds s'étaient rassemblés dans la chambre et ils pensaient qu'il était parti depuis 2 ou 3 heures. Puis, quand il s'est finalement réveillé et a regardé autour de lui dans la chambre, il a dit, « Où étais-tu, Sambo ?» Il a dit, « Oh, est-ce que je suis revenu ici ? Est-ce que je suis revenu ?» Ils ont dit, « Qu'est-ce qu'il y a, Sambo ?» Il a dit, « Oh, j'avais traversé dans l'autre pays. » Ils ont dit, « parle-nous-en. Il a dit, eh bien, je suis simplement allé dans sa présence. Et il a dit, alors que je me tenais là, a-t-il dit, un ange s'est avancé et a dit, t'appelles-tu Sambo un tel? Il a dit, oui monsieur, c'est ça. Il a dit, entre. Je suis entré et je l'ai contemplé alors qu'il était assis là. Il a dit, Sambo, viens ici maintenant. Puisque tu l'as déjà vu, je veux que tu viennes ici. Nous voulons te donner ta robe. Nous voulons te donner ta harpe. Nous voulons te donner ta couronne. Sambo a dit, ne me parlez pas de harpe, de couronne et de robe. Il a dit, mais tu as gagné une récompense. Nous voulons te donner ta récompense. Il a dit, ne parlez pas de moi de récompense. Il a dit, laissez-moi simplement me tenir là et le contempler pendant 1000 ans. Ce sera ma récompense. Je pense que c'est à peu près ce que nous ressentons tous. Laissez-moi simplement me tenir là et le contempler. Oh, il me faudra avoir un corps différent de celui que j'ai maintenant, chaque fibre de votre être, pour le contempler. Jean s'est tenu là et l'a vu assis sur le trône. Et il avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Maintenant, dans la Bible, chaque chose et chaque mot a un sens. Donc, une pierre de jaspe et de sardoine. Maintenant, si vous remarquez, cela correspond au reste de l'Écriture. Au début des Écritures, il était l'alpha et l'oméga. Il était le commencement et la fin. Il était le premier et le dernier. Il était Père, Fils et Saint-Esprit. Il était tout en tout. Et tout cela était rassemblé en lui. Matthieu 17 montre qu'il, sur la montagne de la Transfiguration, tout était rassemblé en lui. Maintenant, le jaspe était une pierre, et la sardoine était une pierre. Bon, nous parlerons de leur couleur un peu plus tard. Maintenant, j'aimerais vous faire remarquer qu'à leur naissance, chacun des patriarches, oui, chaque personne a une pierre de naissance. La mienne, puisque je suis né en avril, c'est le diamant. Chaque mois a une pierre bien précise qui le symbolise. Eh bien, c'est pareil pour les patriarches. En ce qui les concerne, chaque fois qu'un patriarche naissait, avait une pierre de naissance. Arrêtons-nous ici juste un instant. Quand ces mères israélites, je vais vous montrer une parole divine, mes amis, afin que votre foi soit fondée avec certitude sur la parole de Dieu. Chaque fois que ces mères israélites étaient en travail, dans les douleurs de l'enfantement, pour faire naître, donner naissance à ses enfants, les mots mêmes que la mère prononçait au cours de l'accouchement, donnait à cet homme, le bébé qu'elle avait enfanté, son nom, et indiquait sa position géographique en Palestine, le lieu qu'il occuperait à la venue du Seigneur. Les douleurs de l'enfantement de cette mère, comme Éphraïm, qui signifie « sur le bord de la mer », voyez. Et Éphraïm a eu sa terre sur le bord de la mer. Et disons, Juda signifiait « je ne sais pas ce que ce mot signifie, mais je pourrais le trouver ». Bon, voyez, c'est que je n'ai pas le temps, ces petits sujets, pour prendre ces sujets. Mais bon, revenons. Et Juda, quoi que Juda signifie, cela indiquait la position géographique qu'il occuperait parmi les enfants d'Israël. Prenez Genèse 48 et 49. Vous verrez là-dedans que Jacob, quand il était sur le point de mourir, appuyé sur son bâton, aveugle, il a dit à ses enfants la position qu'ils occuperaient à la fin du monde. Et c'est exactement cette position qu'ils occupent depuis le retour dans leur patrie. Il a dit à Joseph, « Tu es une vigne féconde, près de la muraille, voyez, près de la source, l'eau. » Il est allé plus loin. Il a dit, « Tu as mis ta confiance dans le Seigneur Dieu. Tu as rendu ton arc ferme, les États-Unis d'Amérique, voyez, dans le Seigneur. Mais un jour, cette vigne devait revenir et franchir la muraille. Et la voilà là-bas, maintenant même. Exactement ce qu'il a dit il y a presque 3000 ans. Elle y est retournée. Il a dit à Éphraïm qu'il avait les pieds plongés dans l'huile. Et Éphraïm s'est installé exactement là où se trouvent les grands puits de pétrole. Exactement. Ce que ces gens ont exprimé, qui avait-il sur ces mortels? C'est Dieu qui s'emparait de leurs fibres et agissait en eux. On dirait que lorsque l'Empire romain les a dispersés, lorsque d'autres les ont dispersés, lorsqu'ils ont été haïs par Hitler, des dizaines de milliers d'entre eux, il leur a injecté des bulles d'air dans les veines et ils sont morts. On voyait leurs corps suspendus sur des clôtures, avec leurs bébés et tout. et des eaux, et on prenait leurs eaux pour en faire de l'engrais. On les emmenait là-bas, on leur faisait une injection et on les mettait dans des wagons. Puis ils sortaient, et au moment de leur sortie, tout comme à leur entrée, ils chantaient « Le Messie viendra !» Et nous boirons de nouveau le sang du raisin. Quand ces Juifs sortaient, mourants, ils s'avançaient là, sachant qu'il ne leur restait que quelques petits battements avant que leur cœur s'arrête. Et ils descendaient en chantant, « Nous verrons bientôt le Messie !» Oh là là ! Leurs os servaient à fabriquer de l'engrais. Beaucoup d'entre vous, les soldats qui sont ici, vous le savez, vous l'avez vu. J'ai été là-bas sur le site où on les brûlait et tout. Hitler et les autres. Regardez Staline, la Russie et tous les autres. Ils ont tous fait la même chose. C'est vrai. Mais que s'était-il passé avec ces Juifs? Ils avaient été contraints de retourner dans leur patrie. C'est là qu'ils se trouvent. Maintenant, j'ai ce grand film, minuit moins trois. Quand ces Juifs sont rentrés, on leur a demandé, pourquoi revenez-vous? Pour mourir dans la patrie, ils ont dit, nous sommes venus pour voir le Messie. Amen. Oui, nous sommes au temps de la fin. Chacun de ces enfants, à leur naissance, avait une pierre de naissance. Et quant à Aaron, le souverain sacrificateur de chacun de ces enfants, il portait sur lui un pectoral, sur son vêtement. C'est sur ça que je veux rester encore un peu, afin d'arriver au verset 6. Parce que cela fait ressortir tous les symboles de l'Ancien Testament. Tout ça s'y trouve. Tous les meubles et tout ce qui se trouve dans l'Ancien Testament était un modèle de ce qui avait été vu dans le ciel et présente un modèle pour l'être humain. Ici, c'est le pectoral d'Aaron. C'était un souverain sacrificateur. Remarquez, la pierre de naissance de chaque tribu y était représentée. Chacune d'elles avait une pierre de naissance. Et on y avait mis cette pierre. La tribu d'Éphraïm, la tribu de Manassé, la tribu de Gad, la tribu de Benjamin, toutes y étaient représentées. Et c'est ainsi. Puis, on prenait ces pierres de naissance, ces magnifiques joyaux, et on accrochait cela à un poteau comme ceci. Si un prophète prophétisait, et que ça sonnait juste ou pas, on l'amenait devant cet Urim Thummim pour qu'il y donne sa prophétie. Si une lumière sacrée venait sur ces pierres et qu'elle se mettait à briller, c'était Dieu qui répondait. Cela s'adressait à toutes les tribus, à tout le monde, à chaque tribu. Maintenant, pour ce qui est de celle-ci, la première pierre, le premier, combien savent qui était le premier enfant? Comment s'appelait-il? Ruben. Très bien. Qui était le dernier? Benjamin. C'est vrai, la pierre de naissance de Ruben était le jaspe. La pierre de naissance de Benjamin était la sardoine. Il était considéré comme Ruben et Benjamin, le premier et le dernier. Celui qui était, qui est et qui vient. Il était l'alpha, A, dans l'alphabet grec, et l'oméga, Z, dans l'alphabet grec. Il était le premier, le dernier. Il était de Benjamin à Ruben, de Ruben à Benjamin. Oh là là, le voilà. Il avait l'aspect d'une pierre de sardoine et d'une pierre de jaspe. Il était assis sur ce trône. Aimeriez-vous tous le voir assis dans sa gloire? Prenons Apocalypse 21:10 en vitesse et jetons un coup d'œil sur lui ici. Très bien. 21:10-11. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Ayons la gloire de Dieu. Ayons la gloire de Dieu. Sa lumière était semblable à celle d'une pierre très précieuse, de jaspe, aussi transparente que du cristal. Sa lumière. La lumière. Qui est la lumière? Et la ville n'a pas besoin du soleil, parce que l'agneau est son flambeau, une pierre de jaspe et de sardoine. La gloire de Dieu, c'est Jésus-Christ. La gloire de Jésus-Christ, c'est son Église. Et il était le premier. Qu'était-il? Il était le commencement du temps. Il est la fin du temps. Il était le premier des patriarches. Il est le dernier des patriarches. Il était l'Église qui était dans... Il était l'Esprit qui était dans l'Église d'Éphèse. Il est l'Esprit de l'Église à Laodicée. Il est le premier et le dernier, de A à Z. Le premier, le dernier. celui qui était et qui viendra, la racine et la postérité de David, l'étoile du matin, le lys de la vallée, la rose de Saron. Oh, il y a plus de 400 titres dans la Bible qui se rapportent à lui. Pensez-y ce qu'il était. Et pourtant, il était l'humble Seigneur Jésus, qui est né dans une crèche à la louange de Dieu. Observez tout ce qui est humble, parce que c'est juste. Tout ce qui est grand est prétentieux. Alors, n'y prêtez pas attention. Voyez, c'est beaucoup de vent et c'est sans intérêt. Très bien. Maintenant, il avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Revenons en arrière. Avez-vous, nous avons un peu de temps, n'est-ce pas? Nous avons encore une quarantaine de minutes. Remarquons. Prenons Ézéchiel 1. Retournons dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel. Et lisons ici où Ézéchiel l'a vu, lui aussi. Comparons ces écritures maintenant et voyons où nous en sommes. Ézéchiel chapitre 1. Très bien. Lisons un instant. Bon, je vais maintenant lire les 5 premiers versets, puis nous lirons, comme je l'ai noté ici, de 26 à 28. Mais lisons maintenant les premiers versets du chapitre 1 d'Ézéchiel, le prophète. Très bien. Et la 30e année et le 5e jour du 4e mois, j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar. C'est bien ça, Kébar? K-E-B-B-R, Kébar. Et les cieux s'ouvrirent et j'eus une vision divine. Et le... Maintenant, regardez bien. Le 5e jour du mois, c'est le mois où le roi Jojakin était captif. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur, dans le pays chaldéen, près du fleuve du Kébar. Et la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardais, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux. Observez ce prophète ici, 595 ans avant la venue de Christ, et voyez comment sa vision correspond à celle de Jean. Il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée, une gerbe de feu, qui déployait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'air impoli, sortant du milieu du feu. Au centre, encore, apparaissaient 4 animaux, dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Remarquez que la couleur de l'Esprit de Dieu qui était au-dessus de l'aspect de ces 4 êtres était comme de l'airain poli, couleur d'ombre. L'ombre, c'est une couleur jaune-vert. Maintenant, regardez bien. Du jaune-vert. Ombre. Oh, il est le même hier. Il s'est révélé à Ézéchiel. Au milieu de la vision d'Ézéchiel, cette lumière qu'il a vue au-dessus des 4 êtres vivants était jaune-vert. Quand il est venu à Jean, il est apparu comme de l'émeraude, qui est aussi jaune-vert. Là, il est venu là, au révélateur, dans du jaune-vert. Il vient à nous, dans du jaune-vert, la lumière. Marcher dans la lumière, il est la lumière. Prenons maintenant le verset 26 et lisons jusqu'au verset 28. Le verset 26. Au-dessus de si... Oh, j'aimerais que vous notiez cela et que vous le lisiez en entier quand vous rentrerez chez vous, pour gagner du temps. Au-dessus du ciel, qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de sardoine, en forme de pierre. Et sur cette forme de trône, apparaissait comme une figure d'homme placée en haut. C'était le Fils de l'homme, voyez, Christ. Maintenant, observez comment il était vêtu ici. Je vis encore comme les couleurs de l'airain poli. Observez autour de ce Fils de l'homme, comme d'un feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins. Écoutez, soyez spirituels, comprenez bien les choses, dans votre propre cœur ici. Je vous adjure, au nom de Jésus, gardez ceci pour vous. Mais souvenez-vous combien c'est rempli de bénédictions. Jeuve, relisons le verset 27. Écoutez, tout le monde, comprenez bien les choses là. Je vis encore comme de l'airain poli, qui est une couleur jaune-vert, comme du feu. Au-dedans était cet homme, et qui rayonnait tout autour. Le feu tout autour du vert ambre. Maintenant, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné, du feu tout autour, tel l'aspect d'un arc et de la couleur en des jours de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image et la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombai sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Observez. Êtes-vous prêts? Écoutez. Retenez ça maintenant. Souvenez-vous-en pour que vous le sachiez. Jean, tu peux arrêter cette bande. Écoutez, non, je n'ai pas besoin de l'arrêter là. C'est très bien. Je veux dire de retenir cette bande, de n'en donner l'accès qu'à l'Église. Remarquez ceci. Là, c'est afin que vous sachiez que la couleur de la lumière qui entoure le Seigneur, la lumière du Seigneur qui suit le Seigneur et qui est semblable au Seigneur, c'est couleur d'ombre, jaune-vert. C'est la même couleur qu'à la lumière qui est avec nous aujourd'hui, selon la photo qui a été prise d'elle par des scientifiques. C'est jaune-vert, couleur d'ombre. Je n'étais qu'un petit garçon quand je l'ai vu pour la première fois. Vous vous en souvenez, vous les vieux de la vieille qui sont ici. Avant que cette photo soit prise, je vous ai toujours dit, c'est une lumière jaune-vert, qui est couleur d'ombre. Maintenant, pour que vous sachiez que l'Esprit du Seigneur, lorsqu'il a vu cela à partir des reins de l'être vivant qui se tenait en sa présence, il a dit, depuis ses reins jusqu'en haut, c'était comme du feu. Une lumière depuis ses reins jusqu'en bas, il était environné de lumière. Et tout autour, il y avait de nombreuses couleurs comme dans un arc-en-ciel. Pas vrai? J'aimerais que vous vous souveniez que Dieu existe encore dans les mêmes couleurs, depuis les reins jusqu'en haut, du feu, couleur d'ombre. Une photo prise avec une caméra ou avec un appareil photo couleur, couleur d'ombre, depuis les reins jusqu'en haut, depuis les reins jusqu'en bas, et tout autour de nombreuses couleurs, comme celle de l'arc-en-ciel, dans le ciel après une pluie. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Le Saint-Esprit encore dans sa puissance, encore dans son Église en ces derniers jours. Voilà. Cela n'a rien à voir avec ma personne. Je me tenais simplement là. Mais c'est une photo qui a été prise. J'aimerais que vous regardiez cela. C'est exactement ce qu'Ézéchiel a vu. Les mêmes couleurs, la même manière, agissant de la même manière, rayonnant de la même manière que ces êtres vivants. Qu'est-ce que c'est? Ces êtres vivants représentent l'Église vivante, l'Église qui vit par la puissance et la résurrection de Christ. Ces mêmes couleurs ombrées l'ont environné depuis les reins jusqu'en haut, depuis les reins jusqu'en bas. Il n'y a plus à faire des suppositions. La science en a pris les photos. Regardez leurs couleurs. Regardez les couleurs du feu là-dessus. Voyez, l'arc-en-ciel. Regardez cette couleur jaune émeraude. Maintenant, cet appareil photo-là n'était qu'un appareil photo ordinaire. Cet appareil photo-là prenait des couleurs, des photos en couleurs, des couleurs de Kodachrome. Regardez les couleurs de l'émeraude là-dessus. Si je pouvais la mettre sous une lumière quelque part ici, pour que vous, derrière, puissiez la voir. La voyez-vous maintenant? Comme un arc-en-ciel. Regardez les stries qui se voient d'un bout à l'autre comme l'arc-en-ciel, chacune d'une couleur différente. Nous allons y venir dans quelques instants et voir ce qu'il en est de ces couleurs. Que reflètent-elles? Oh, cela fait simplement bondir mon pauvre cœur de joie. est de savoir qu'en ce jour où nous vivons, que Christ, alors que tout autre sol, c'est du sable mouvant, tout autre sol. Je pense, pourquoi ne puis-je pas le raconter? Pourquoi ne puis-je pas amener le monde à voir cela? Le monde n'était pas censé le voir. Le monde ne le verra pas. Ils ne le verront jamais. Mais l'Église reçoit la plus grande secousse qu'elle ait jamais eue. Autrefois, on n'aurait pas pu en prendre une photo. On le peut maintenant, parce qu'on a des appareils mécaniques. Ceux qui essayent de se servir des choses mécaniques pour renier Dieu font exactement le contraire et prouvent que Dieu existe. C'est vrai, l'émeraude. Bon, souvenez-vous, je n'ai pas inventé ça. Je vous le lis directement de la Bible. Observez alors que je lis. Regardez et voyez qu'il s'agit du même Seigneur Dieu. Il n'y a pas de différence. Regardez bien le verset 27. Je vis encore de l'airain poli, comme du feu. Vous voyez, comme des langues de feu. Vous voyez, de l'airain poli, des couleurs ambrées, issues du feu. Vous le voyez maintenant? Couleurs d'ombre. Voici les couleurs ambrées issues du feu. Il est dit ici, un peu plus bas, et l'aspect comme un arc ou un arc-en-ciel. En des jours après une pluie, un arc-en-ciel. En des jours après une pluie. Et il y avait un être vivant. Et Jean, qui représentait l'Église dans sa totalité, avait été enlevé. Je vous l'ai dit, une personne ici, dans une vision, peut représenter tout le corps de Christ, complètement. Maintenant, regardez bien. Je vis encore de l'airain poli, comme du feu, duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, et la forme, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis comme du feu. Observez, regardez le feu qui se répand. À partir de quoi? De l'arc-en-ciel, des sept couleurs. Maintenant, regardez bien. On trouve exactement sept couleurs. Là, et l'arc-en-ciel a sept couleurs. Je vis comme du feu et comme la lumière éclatante dont il était environné, tel l'aspect d'un arc qui est dans les nuées en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait, qui entourait le trône de Dieu. Voyez? C'était une image de la gloire de l'Éternel. Pas l'Éternel, là. La gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel qui couvre son Église. Parce qu'il est dans son Église. Amen. Oh, c'est de la folie aux yeux de l'insensé. Mais combien c'est glorieux pour ceux qui croient. Ah oui, c'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis une voix parler. Là, il continue et donne la signification de la vision. Nous n'avons pas le temps d'en parler ce matin. Maintenant, remarquez comment le Seigneur, dans sa grande miséricorde, nous donne ces choses. Bon, prenons-en un autre. Ézéchiel et Jean l'ont vu dans le mystère de ses couleurs et de sa lumière. Et ils ont dit que c'était couleur d'ombre. Plus tard, Jean, à vous qui prenez, qui notez les passages des Écritures, 1 Jean 1, 5 à 7. Plus tard, Jean, qui est resté environ 3 ans sur l'île de Patmos, lorsqu'il écrivait le livre, quand il est revenu, c'était un vieil homme qui avait 90 ans passés, dont 1 Jean 1, 5 à 7. Il a dit, Dieu est lumière. Jean avait eu une expérience. Il l'avait vu. Il savait qu'il était lumière. La lumière. La lumière éternelle. Pas une lumière cosmique, pas une lumière de lampe, ou une lumière électrique, ou la lumière du soleil. Mais la lumière éternelle. Oh, comme je l'aime. Dieu est lumière. Remarquez, nous allons maintenant revenir en arrière et voir où nous en sommes. Nous sommes encore au verset 3, n'est-ce pas? Allons-nous y arriver? Je l'espère. Très bien. Celui qui avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude, jaune-vert. Maintenant, l'arc-en-ciel. Remarquez que c'était un arc-en-ciel. Revenons à Genèse 9 pour voir cela, dans Genèse 9, 13. et nous y retrouverons l'arc-en-ciel, quand un arc-en-ciel est apparu pour la première fois. Genèse chapitre 9, nous allons commencer au verset 13. Genèse 9, 13. Vous appréciez tout cela? Oh, j'aime cela. Je ne fais pas qu'apprécier cela. J'aime cela. Regardez. J'ai placé mon arc dans les nuées et il servira de signe. Observez, de signe d'alliance entre moi et la terre. Quoi? Entre moi et Noé? Non, entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous. Là, il revient à son alliance avec eux, mais c'est l'alliance de l'arc-en-ciel. Vous voyez, pour Noé, l'alliance était la vie. Il l'avait épargnée. Mais l'alliance que Dieu avait faite avec lui-même, c'était l'arc-en-ciel, indiquant qu'il ne... Eh bien, dans un instant, je vais vous montrer ce qu'était l'alliance de Noé avec Dieu. Mais ici, c'était l'alliance de Dieu avec lui-même. Amen. Un arc-en-ciel. Donc, nous voyons qu'une alliance est un signe. Un signe. Dieu a dit ici que c'était un signe, n'est-ce pas? Voyez. J'ai placé mon arc dans les nuées. C'est après la destruction du monde, destruction causée par l'eau. Toute chair, sauf Noé. Noé avait été détruit. Et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Pas moi et le monde. Le monde, c'est le cosmos. Voyez? Mais ceci, c'est entre moi et la terre. Dieu a dit, j'ai fait cette terre, et je l'ai traitée si durement que je l'ai mise sens dessus dessous, et je l'ai mise en pièces. Je n'aurais peut-être pas dû le faire. Il a dit, j'en étais même désolé, c'était si horrible. Que pensez-vous qu'il en sera maintenant, quand il viendra dans sa colère? Mets-toi en ordre, ami pécheur.
He's coming again. You believe that?
Amen.
He's coming again.
Le croyez-vous?
I love that, don't you?
Amen.
Oh, would you be numbered?
J'aime ça. Pas vous? Je ne voudrais pas l'être. Et vous? Non, monsieur. Être un ennemi ou être son ennemi, être avec lui serait bien. Mais contre lui, sois sans tache au-dedans, veille et attends. Quel spectacle tu contempleras. Il revient bientôt. Maintenant, une alliance, un signe de quoi? Un signe de quoi? D'un sacrifice qui a été agréé. Maintenant, prenez Genèse 8, 20 à 22. Genèse 8, 20 à 22. C'est juste de l'autre côté de la page. Noé a bâti un autel à l'Éternel. Il prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre, ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. » Parce que les pensées de son cœur sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui vit comme je l'ai fait. Et maintenant, nous pouvons lire le dernier verset. Et tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Une alliance. La même chose que Jean a vu. Jésus, l'alliance agréée de Dieu tout autour, dans les cieux. Et tout autour de lui, il y avait un arc-en-ciel, tout autour du trône, semblable à de l'émeraude, une lumière ambre vert autour du trône. Que Dieu soit loué. Remarquez, celui de Noé est composé principalement de l'arc-en-ciel de Noé est composé principalement de sept couleurs. Tout le monde sait que l'arc-en-ciel a 7 couleurs. Eh bien, quelles sont ces couleurs? Rouge, orange, violet. Non, rouge, rouge, orange, vert, bleu, indigo et violet. Ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel. Maintenant, nous avons là quelque chose de profond et je vais devoir m'en tenir aux grandes lignes puisqu'il se fait tard. Bon, souvenez-vous, orange, ou plutôt rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Maintenant, si vous remarquez, ça fait 7. Regardez bien, 7 arc-en-ciel. Je veux dire 7 couleurs. Un arc-en-ciel a 7 couleurs. Ça veut dire 7 arcs. 7 arcs. 7 églises qui reflètent 7 lumières. Chaque lumière qui se fond dans l'autre. Ça commence par le rouge. Le rouge. Après le rouge vient l'orange, qui est un reflet du rouge. Après l'orange, c'était... Après l'orange vient le jaune, qui résulte du mélange du rouge et de l'orange. Ça donne du jaune. Puis le vert. Le vert et le bleu donnent du noir. Puis vient l'indigo. Et de l'indigo vient le violet, qui est une nuance du bleu. Oh! Alléluia! Ne voyez-vous pas? Dieu, dans son arc-en-ciel, a 7 couleurs. Son alliance qu'il a faite. Une alliance selon laquelle, à travers les 7 âges de l'Église, les 7 couleurs, il sauverait la terre. Qu'allait-il faire? Souvenez-vous, c'est avec la terre, sa couleur, qu'il l'avait faite. Mais regardez bien maintenant. Cet arc-en-ciel, sur le plan horizontal, ne couvre, par un arc, que la moitié de la terre. C'est tout ce que l'arc-en-ciel de Noé colorait, juste couvrait. Juste la moitié de la terre. C'était en forme d'arc. C'est tout ce que vous pouvez voir. Mais quand Jean l'a vu, lui, sous sa couleur émeraude, il enveloppait entièrement le trône de Dieu. On n'en a pas encore raconté la moitié. Il couvrait, c'était juste, avec la terre, ça ne forme qu'un arc. On en voit juste la moitié. Ce sont les âges de l'Église. Mais quand Jean l'a vu, dans cette couleur d'ombre, la couleur d'ombre, cela l'entourait et le couvrait comme un halo. Un halo. Un halo couleur d'ombre. C'est ce qui entourait son être. Voyez? Une couleur, un Dieu, au-dessus de tout, à travers tout, et en tous. Mais il y a 7 âges de l'Église. Considérez un gros diamant. Autrefois, on les trouvait en Afrique. C'est possible d'en ramasser dans les rues. Ne vous avisez pas d'en garder un, parce qu'il n'est pas taillé. Si vous en avez un qui n'est pas taillé, on vous jettera immédiatement en prison. Et vous y passerez le reste de votre vie pour l'avoir gardé. Vous devez le rendre dès que vous le trouvez. Donc, on prend le diamant. Oh, c'est quelque chose de très dur. J'ai vu un gros broyeur de 40 tonnes. Oh, comme ça, on y versait des pierres bleues pour les broyer. Et cela réduisait ces pierres en poussière. Mais c'était incapable de broyer le diamant. Ce broyeur de 40 tonnes, suspendu à un pivot, là-haut, avait de grands engrenages qui tournaient comme ceci et broyaient ces pierres. Mais un diamant y passait sans problème et faisait bouger cette pièce en fonte de 40 tonnes. Oh, quand ça broie, ça descend sur un tamis, ça passe au crible des autres tamis. C'est lavé et c'est finalement transporté par un long convoyeur. Le gérant de cette grande entreprise diamantifère, Kimberley Diamond Mines, était l'un de mes huissiers là dans la file. Un frère très doux et humble. Et puis, à environ 1 mètre au-dessus de la sortie d'eau où elle coule, on y applique de la cosmoline. Vous savez comment on appelle ce produit? La Meda. C'est quoi cette chose qu'on a dans un bocal dans notre armoire? De la vaseline. Et on met une couche de vaseline d'environ 3 cm tout en haut de la partie coulissante. Et ça descend. Et remarquez, chaque fois que la pierre y passe, elle roule sur la vaseline. Mais quand c'est un diamant, ça colle. Le diamant est sec et ça colle là-dessus. Je les ai vus les ramasser, même les plus minuscules, et les trier à l'aide de lunettes. Et je leur ai demandé pourquoi ils le faisaient. Ils m'ont dit qu'ils les vendaient en Amérique pour la fabrication des aiguilles des gramophones Victrola et tout. Ça ne s'use pas. voyez? Mais ces gros diamants, eh bien, ils sont là, sous la forme d'une grosse balle. Mais quand on les prend et on les taille avec des machines électriques pour en faire des diamants taillés. Puis, quand on les taille, c'est pour qu'ils reflètent les couleurs ardentes de leur carat. Ils vont aussi refléter les 7 couleurs. Oh, combien Jésus! Oh, il se peut que vous ayez beaucoup d'argent. Il se peut que vous possédiez une flotte de Cadillac. Il se peut que vous soyez le pasteur d'une grande morgue ou d'une cathédrale ou autre chose. Il se peut que vous soyez un évêque ou un archevêque. Mais, oh frère, quand vous trouvez ce joyau, ce diamant, un homme vend toute sa fortune, il s'en débarrasse et tout. Regardez la Vierge endormie. Oh, qu'a-t-elle fait? Il lui fallait vendre quelque chose pour se procurer de l'huile. Que lui fallait-il vendre? Ses vieux credos, ses dénominations et tout. Elle a vendu tout ce qu'elle possédait pour trouver Christ. Christ, ce grand joyau. Jésus, ce corps. J'ai un billet pour aller au ciel. Quand le train arrivera un de ces sombres matins. Oh, quelle bénédiction! Oh, précieux est ce flot qui me rend blanc comme neige. Je ne connais point d'autre source, rien que le sang de Jésus. Pas de popularité, pas de grande chose, rien du tout, pas de richesse, ni rien du tout. Donnez-moi seulement ce précieux flot. C'est tout. Je n'ai rien à t'apporter, mais à ta croix, je veux rester. Ce grand joyau, qu'est-ce que c'était? C'était parfait. C'est à l'âge de 33 ans et demi que Dieu l'a fait passer par la grande broyeuse. Quand il l'a emmené là-bas, il a commencé à le façonner. Il l'a taillé, il l'a broyé, il l'a brisé. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour notre iniquité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Qu'est-ce que Dieu a fait à cet homme parfait? Il n'y en avait qu'un seul au monde, un seul au monde. C'était lui. Et Dieu l'a ciselé ici. Il était blessé pour nos péchés. En effet, j'étais un pécheur. Il a permis que la lumière de l'arc-en-ciel de ces 7 âges de l'Église brille sur moi pour que je sache qu'il avait été blessé pour mes péchés. Voilà votre arc-en-ciel à 7 couleurs. Il était brisé pour notre iniquité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Dieu l'a taillé, l'a brisé, l'a broyé et l'a taillé, afin que par ses blessures mortelles, il puisse refléter le pardon des péchés, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la bienveillance. Les 7 esprits de Dieu sont les 7 fruits de l'esprit qui allaient se refléter dans son peuple. Il était brisé, façonné et formé afin que la lumière de Dieu qui brille à travers le corps de ce seul homme puisse racheter le monde entier. Je serai élevé de la terre et j'attirerai tous les hommes à moi. Observez le reflet des couleurs de l'arc-en-ciel. Mais ici, quand Jean l'a vu, qu'était-ce? Le jour de la rédemption était terminé. C'était complètement terminé. Il l'a donc vu de son état originel. Couleur d'ombre. Pas seulement la moitié du monde. Ça ne peut que... Le soleil ne peut éclairer qu'une moitié du monde à la fois, voyez, au cours d'une journée. Mais quand Jean l'a vu, il était assis et avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Des couleurs ambrées. Si on mélange les 2 couleurs, on obtient une couleur d'ombre. Une couleur d'ombre autour du trône. Oh là là! Oh, je vous le dis, c'est juste. Nous pourrions continuer sans arrêt. 7 esprits, 7 couleurs, 7 âges de l'Église, 7 ministres, 7 lumières. Tout va par 7. Dieu est parfait en 7. Dieu a travaillé 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Le monde existera pendant 6000 ans. Et au 7e millénaire, ce sera le millénium. Remarquez, c'est dans un demi-cercle. On n'en connaît pas encore la moitié. Eh bien, ces choses représentent certainement quelque chose. Maintenant, dans Exode 23, 13. Et dans Hébreux 6, 12. Dieu a fait une alliance avec lui-même et a juré par lui-même. Hébreux 13 nous dit ceci, ou plutôt 9, 13, qu'il a juré par lui-même. Il n'y avait pas plus grand que lui par qui il pouvait jurer. Quand il a annoncé à Abraham et à Isaac, là, il avait annoncé à Abraham qu'il ferait une alliance avec lui, une alliance perpétuelle. Dieu, une alliance est toujours faite par serment. Il n'y a donc personne. On prête serment par quelqu'un de plus grand que soi. On prête serment par sa mère. On prête serment par sa nation. On prête serment par quelque chose. On prête serment par Dieu. Mais on ne peut pas prêter serment à moins que ce soit par quelqu'un de plus grand que soi. Et il n'y avait personne de plus grand que Dieu. Il a donc juré lui-même et par lui-même. Amen. Il a juré par lui-même qu'il confirmerait cette alliance. Amen. Oh, il a juré par cela qu'il préserverait la semence d'Abraham. Quelle est la semence d'Abraham pour les gens des nations? Le baptême du Saint-Esprit, une semence d'Abraham. Il a juré par lui-même, « Je les ressusciterai, chacun d'eux, je leur donnerai la vie éternelle et je les replacerai ici sur la terre. » Qu'est-ce que nous avons à nous dépêcher, à nous tracasser? Ainsi, nous le voyons dans l'arc d'un cercle vert, couleur d'ombre. Cette couleur verte, que représente le vert? La vie. Le vert, c'est cet arbre toujours vert. Il reste toujours vert. C'est la vie. Qu'est-ce que cela signifie? Que Dieu avait promis, quand il avait prêté serment autrefois dans la Genèse, qu'il avait placé l'arc-en-ciel dans le ciel pour montrer qu'il ne détruirait plus ce monde par l'eau. Il a aussi prêté serment et juré par lui-même qu'il ressuscitera toute la postérité d'Abraham et que ce monde subira toutes les secousses de ses jugements. Nous parlerons de ces jugements lors de nos prochaines leçons et nous vous montrerons quand ce monde fera irruption, se transformera en matière volcanique, volera en éclats et sera chamboulé et tout. Mais il a juré par lui-même qu'il ne le détruira pas, mais qu'il l'aplanira de nouveau et mettra ses enfants sur la terre pour le millénium. Oh là là, j'attends la venue du millénium, jour béni, où notre Seigneur viendra chercher son épouse qui l'attend. Oh, mon cœur languit et soupire après ce jour de délivrance, où notre Sauveur reviendra sur la terre. Oh, comme nous avons hâte de voir ce jour. Il a promis que le glorieux millénium viendrait. Et autre chose, la raison pour laquelle il était entouré, c'est qu'il est un Dieu qui garde son alliance. Il gardera son alliance. Bon, bref, prenons le verset suivant. Oh, nous voulons en voir un de plus, et nous n'avons que 10 ou 15 minutes pour le faire. Êtes-vous trop fatigué? Vous voulez continuer? Très bien. Prenons le verset 4. Et autour du trône, 24 trônes, et sur les trônes, 24 anciens assis, vêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Il se peut que nous ne terminions pas ce verset. Eh bien, commençons le verset 4. Regardez maintenant, quand Jean l'a vu, il était environné d'une couleur émeraude, dont nous avons étudié toutes les couleurs. L'arc-en-ciel et tout, ainsi que ce qu'il en était. Maintenant, au sujet du verset 4, la première chose dont il est question ici, au quatrième vers, autour du trône. Regardez bien, c'est une si belle image. Ne manquez pas cela, le trône. Vous savez, revenons à Moïse. Moïse, nous n'avons pas le temps d'approfondir cela. Alors prenez simplement ce que je dis. Moïse, quand il a reçu une vision sur le mont Sinaï, j'aimerais vous faire remarquer qu'ici, ce n'était plus un trône de grâce. Là, le sang avait disparu, le sacrifice était parti, ils avaient été agréés, et il n'y avait plus de sang sur le propitiatoire. C'était maintenant un tribunal, parce que des tonnerres et des éclairs en sortaient. Pas vrai? Souvenez-vous, c'était comme au mont Sinaï. Quand Moïse est allé sur le mont Sinaï, que s'est-il passé? Le tonnerre, les éclairs, et même si une vache, un veau, un mouton, ou qui que ce soit, touchait la montagne, il devait mourir. La Bible dit, le tremblement de terre était si terrible que même Moïse était épouvanté. Et Moïse, il a dit, ôte tes souliers, tu es sur une terre sainte. Josué, le grand guerrier, qui devait faire traverser les enfants et partager leur héritage entre eux, ne pouvait monter que jusqu'à mi-chemin sur la montagne. Et Moïse était là-haut, au milieu des couleurs de Dieu, de l'émeraude et des éclairs qui brillaient autour de lui en regardant les commandements en train d'être gravés. Il se tenait dans la présence de Dieu. Cette voix qu'il lui avait dit autrefois, « Moïse, où es-tu ? Ôte tes souliers, car tu es sur une terre sainte. » C'était maintenant un tribunal. Nul ne pouvait se tenir là-bas, en dehors des rachetés. Le pécheur ne pouvait pas s'en approcher du tout. C'était terminé. Le tribunal. Très bien. Bon, Moïse a fait les choses sur la terre, il a construit le tabernacle d'après le modèle qu'il avait vu dans le ciel. Ça, nous le savons, n'est-ce pas? Nous voyons que Paul a fait la même chose. Il doit la voir, Hébreux 9:23, où Moïse a fait les choses exactement comme lui. Et Paul, dans sa vision, lorsqu'il est monté au ciel, quand il a enseigné cette grande épître aux Hébreux, il a dû voir dans sa vision la même chose que Moïse avait vue. Parce qu'il a dit, lorsqu'il a enseigné cette merveilleuse épître aux Hébreux, que le christianisme était l'antitype de l'Ancien Testament. Il était un grand enseignant, ce Paul. Eh bien, c'était son trône à ce moment-là. Puis, dans le... Prenons, il n'y a pas moyen, je ne peux pas. J'allais laisser ceci de côté, mais je ne peux pas le faire. Où est le tableau? L'as-tu repris? Est-ce que c'est à l'arrière, Doc? Eh bien, je peux peut-être vous le faire voir d'ici. Bon, prenez vos crayons et du papier, car je veux dire quelque chose ici. J'étais assis ce matin et quelque chose m'est venu à l'esprit. Bon, je vais vous dire ce que j'ai fait. Si vous remarquez, je l'ai dessiné ici au verso. Voyez, je l'ai dessiné exactement comme l'esprit me l'a donné. Voyez, j'ai dessiné ici ce que c'est. Mais j'aimerais dire quelque chose ici. Maintenant, Dieu, quand il siège sur le trône, à ce moment-là, il est le juge. Pas vrai? Quand le juge exerce-t-il le jugement? Quand il s'installe sur le siège de son tribunal, le trône. Maintenant, j'aimerais que vous regardiez bien comment les choses étaient disposées dans l'Ancien Testament, comment les parvis qui mènent à son trône étaient construits, et ce que Jean a vu ici. Nous ne pourrons pas traiter de tout cela ce matin, mais Jean a vu les mêmes parvis par lesquels on s'approchait de lui, et la manière dont on s'approchait de ces parvis. Maintenant, oh, j'aime ça. Or, dans l'Ancien Testament, il y avait ce qu'on appelait l'assemblée, où le peuple se rassemblait. Tout d'abord, avant d'entrer dans l'assemblée, avant d'y entrer, il fallait venir sous le sang versé, les parvis extérieurs. Il devait d'abord venir aux eaux de séparation, où la vache rousse était tuée, afin d'en faire les eaux de séparation. C'est le pécheur qui vient écouter la parole. C'est ainsi que ce grand rabbin juif qui venait d'être conduit au Seigneur m'a entendu prêcher là-dessus à Tulsa. À Tulsa, c'est ça. Nous étions là, à Tulsa, dans l'Oklahoma. Et il est venu là, juste en observateur. Il est venu à la fin du service et il a dit, « Je sais !» Il a dit, « C'est l'un des sept plus grands rabbins au monde. » Il était venu là et avait dit, « Je veux voir ce que ces hommes d'affaires chrétiens, on les appelle des pentecôtistes, je vais aller m'asseoir là-bas pour les écouter. » Et quand le Seigneur m'a conduit à parler du sacrifice de la vache rousse à la fin du service, il a rencontré quelques frères qui étaient là, à l'arrière, et a dit, « Je voudrais rencontrer cet homme. Je sais qu'il n'a même pas d'instruction. » Mais il a dit, « Je suis un rabbin juif et je connais toutes ces différentes approches et tout. » A-t-il dit, « Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. » Il a dit, « Je n'ai jamais vu ça. » Et maintenant, c'est un rabbin pentecôtiste rempli du Saint-Esprit qui va partout pour prêcher l'Évangile. Il se fait appeler un rabbin pentecôtiste. Il est allé à l'hôtel Washington Yuri l'autre jour, quand nous nous sommes rencontrés chez Fred Jack. Et la dame le connaissait. Elle a dit, « Rabbin, a-t-elle dit, nous avons une belle chambre pour vous. » Mais a-t-elle dit, « Il n'y a pas de télévision. » Il a dit, « Ces choses sont des enfers visions. Jetez-les dehors. Je n'en veux pas de toute façon. S'il y en avait une là-dedans, je vous l'aurais fait jeter dehors. » Elle a dit, « Rabbin !» Il a dit, « Je suis un rabbin pentecôtiste. » Alléluia. Il a dit, « Frère Branham, quand vous irez en Israël, j'aimerais y aller avec vous. » Il a dit, « Nous pouvons la porter à notre peuple. » J'ai dit, « Pas maintenant, rabbin, pas maintenant, pas maintenant. Ce n'est pas encore l'heure. Attendez un peu. Maintenant, remarquez ces lieux saints. Eh bien, quand on entrait dans les parvis, il y avait premièrement les parvis extérieurs. Ensuite, il y avait l'autel où les sacrifices étaient offerts. L'autel d'airain. Puis, à l'extérieur de l'autel d'airain, il y avait un voile accroché là, qui donnait accès au lieu très saint. Derrière ce voile, il y avait le propitiatoire. Derrière ce voile, il y avait les chérubins. C'est ce dont j'aimerais parler dans notre prochaine leçon, de ces chérubins qui couvraient le propitiatoire de leur ombre. Oh là là, nous pourrions passer tout le mois là-dessus, voyez, sur ces chérubins. Bon, maintenant, remarquez la manière dont on y entrait. L'assemblée pouvait se rassembler là-bas. Les sacrificateurs pouvaient se tenir ici. Mais seul le souverain sacrificateur pouvait pénétrer là-bas une fois par an avec le sang. Et il fallait qu'il soit vêtu d'une certaine manière, qu'il porte un certain vêtement. Il fallait qu'on y attache une clochette et une grenade, l'une à la suite de l'autre. Et quand il marchait, il devait marcher d'une certaine façon. Comme il marchait, ça faisait entendre « Saint, Saint, Saint est l'Éternel !»« Saint, Saint, Saint est l'Éternel !» Ensemble, ces clochettes et ces grenades faisaient entendre « Saint, Saint, Saint !» Pourquoi ? Il s'approchait de Dieu avec le sang de l'Alliance dans la main. Il allait devant lui avec le sang. Loin, oh là là, de certains parfums. Il fallait que ses vêtements soient confectionnés par des mains remplies du Saint-Esprit. Ce sont des mains consacrées qui confectionnaient ses vêtements. La rose de Saron, l'huile d'onction, avait été versée sur sa tête. Elle coulait sur sa barbe et répandait sur le sol un parfum royal. Des grenades et des clochettes. Ils transportaient le sang d'un agneau innocent. Et ils n'osaient pas approcher ce voile à l'extérieur. Sinon, ils mouraient instantanément sur place. Il fallait donc qu'il y aille, en marchant d'une certaine façon. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, 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 en s'approchant de Dieu est l'Éternel. Saint, Saint, Saint. Il y allait et offrait le sang sur le propitiatoire. Une fois par an, et pendant qu'il était là, il avait le privilège de voir la gloire de la Shekinah, la colonne de feu, la lumière couleur d'ambre qui descendait, celle qui avait fait sortir les enfants d'Israël. Il avait même rempli le temple de fumée afin que personne ne la voie. La gloire du Seigneur est descendue au point qu'il était complètement rempli de fumée. Et il est venu lui-même, est allé derrière le voile et s'est installé sur le propitiatoire, dans le Saint des Saints, le lieu très saint, comme on l'appelle, le Saint des Saints. Et il fallait qu'il soit vêtu d'une certaine manière, qu'il marche d'une certaine manière, et qu'il soit oint d'une certaine manière. Il fallait qu'il soit quelqu'un de spécial pour entrer là. Combien l'assemblée devait l'envier. Mais quand Jésus est mort, le voile du temple s'est déchiré. Non seulement un souverain sacrificateur, mais celui qui veut peut recevoir cette même onction de la gloire de la Shekinah et mener une vie sainte. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et s'approcher dans la présence même de Dieu par le sang de Jésus-Christ qui est devant lui. Y aller avec « Seigneur Jésus, il y a ici un malade. C'est mon frère. Il est sur son lit de mort en ce moment. Il se meurt. Je m'approche de toi. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. » Pour quelle raison? En tant que souverain sacrificateur. Pour quelle raison? Pour mon frère. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Voilà votre marche quotidienne, vos paroles quotidiennes, votre conduite quotidienne, votre cœur, votre âme et tout. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Aucune racine d'amertume, ni rien d'autre. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Alors que nous commençons à nous approcher pour notre frère, celui qui veut peut venir. Oint, avec le sang qui est devant lui, le sang qui le précède, et fait entendre « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Eh bien, ça, c'était le parvis extérieur. le lieu saint et le saint des saints, c'était le sanctuaire de Dieu sur la terre. Regardez bien, c'était un type de celui qui est au ciel. Maintenant, cela nous renvoie directement à cette même Écriture. Oh, alors que nous parcourons l'Apocalypse d'un bout à l'autre, nous pouvons revenir à ceci de nouveau. Voyez, maintenant, Jean, où était Jean? Dans les parvis. Lisons juste un peu plus loin pour que vous voyez le tableau. Du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Devant le trône brûlent sept lampes ardentes. Attendez que nous arrivions à cela, qui sont les sept esprits de Dieu, reflétant la lumière de Dieu dans l'Église, directement du trône de Dieu, pas d'un séminaire, pas d'un évêque, mais du trône de Dieu, par la révélation de la puissance de sa résurrection, ce qui fait de lui le même hier et éternellement. C'est cette étoile qui était là à refléter cette lumière, la lumière de la Shekinah, de la gloire de la Shekinah, du Saint des Saints, cette lampe ardente qui repose sur ses chandeliers et qui reflète sa lumière, ses couleurs, la puissance de sa résurrection, directement dans l'Église. Amen. Il y a devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Il continue et il se met à décrire ces êtres vivants, la même chose qu'a vu Ézéchiel, ses gardiens, un semblable à un homme, un semblable à un lion, et un semblable à l'aigle. Qu'est-ce que c'était? Maintenant, soyez attentifs quand nous en parlerons et que nous identifierons le lion de la tribu de Juda et tous les autres qui, selon leur tribu, étaient placés sur les quatre murs et qui gardaient ce propitiatoire. Oh, quel tableau! Oh, il y a des jours glorieux devant nous. Comme nous les avons vus là, c'était le trône de Dieu dans le ciel. Moïse en a présenté le modèle sur la terre. C'était le trône de Dieu, puisque son tribunal était représenté ici sur la terre, dans le Saint des Saints. Dieu, tout Israël, venait à ce seul endroit pour trouver la miséricorde, parce qu'on ne pouvait rencontrer Dieu que sous le sang versé. Maintenant, écoutez bien. Un jour, la gloire de la Shekinah a quitté ce propitiatoire pour se poser sur un autre tabernacle. Amen. Celui-ci, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, le tribunal de Dieu. Si vous parlez contre moi, cela vous sera pardonné. Parlez d'un autre qui viendra, un autre propitiatoire. Parlez, si vous parlez contre moi, le Fils de l'homme, je vous pardonnerai. Mais un jour, le Saint-Esprit viendra habiter dans le cœur des gens. Une seule parole contre lui ne sera jamais pardonnée. Le jugement devient de plus en plus sévère au fur et à mesure qu'on avance, parce que la patience de Dieu s'épuise continuellement en essayant de ramener à lui les pécheurs, afin de les réconcilier avec lui. Premièrement, il était là-haut, dans les cieux, et brillait à travers les étoiles. Ensuite, il était sur la terre et brillait à travers la gloire de la Shekinah. Puis, il est venu, a été fait chair et habité parmi nous, usant toujours de patience. Alors, il a racheté l'homme par son sang et est entré dans son Église sous la forme du Saint-Esprit. Parlez contre cela, c'en est fini de vous. C'est terminé. Là, vous pouvez voir d'où vient la secousse. Ils ne reconnaissent pas le temps dans lequel on est. Les gens ne peuvent pas comprendre ce que cela signifie. Bon, donc le premier trône était dans le ciel, le tribunal. Le deuxième trône était en Christ. Le troisième trône est dans l'homme. Maintenant, je vais prendre ce petit croquis que j'ai ici. Nous allons présenter... J'aimerais avoir un tableau, ce qui me permettrait peut-être de présenter cela d'une manière plus simple pour vous. Nous allons aborder les parvis et les dessiner simplement sous forme d'un cercle, ou bien comme ceci, l'un ou l'autre. Maintenant, nous allons aborder, je crois que le mieux, ce serait peut-être comme ceci. Nous allons aborder et présenter les parvis. Maintenant, un homme. Qu'est-ce que c'est? L'homme est un être trin, corps, âme et esprit. Combien savent cela? Regardez quelle est la voie d'accès de Dieu. Son cœur, qu'est-ce que c'est? Vous rappelez-vous mon message? Dieu a choisi le cœur de l'homme comme tour de contrôle. Le diable, lui, a choisi sa tête comme tour de contrôle. Voyez, il lui fait voir des choses, regarder avec ses yeux. Mais au-dedans, Dieu qui est dans son cœur, lui fait croire des choses qu'il ne peut pas voir. N'est-ce pas? Vous voyez, Dieu trône sur son cœur. C'est dans le cœur de l'homme que se trouve le trône de Dieu. Vous saisissez? L'homme, Dieu a établi son trône dans le cœur de l'homme. Maintenant, regardez, quelle est la première partie de l'homme? La première partie de l'homme, c'est le corps. La partie suivante, c'est son âme, qui est la nature de son esprit et qui fait de lui ce qu'il est. Il s'approche maintenant. Alors, la troisième partie de l'homme, c'est son esprit. Et son esprit est au centre de son cœur. Et c'est au centre du cœur que Dieu vient d'établir son trône. Vous vous souvenez, il y a quelques années, dans les journaux de Chicago, il y a environ 4 ans, un vieux croyant, un vieil incroyant plutôt, disait que Dieu avait fait une erreur quand il a dit par Salomon, « Comme un homme pense dans son cœur. » Il disait, « Il n'y a pas de faculté mentale dans le cœur pour stimuler la pensée. » Comment pourrait-il penser avec son cœur? Il voulait dire sa tête. Si Dieu avait voulu dire sa tête, il aurait dit sa tête, comme Moïse. Et si Dieu avait dit, « Moïse, ôte tes souliers, tu es sur une terre sainte. » Et qu'il avait dit, « Eh bien, pourquoi ne pas ôter mon chapeau, tout simplement ?» Ça aussi, ça fait l'affaire. Il a dit « les souliers ». Il n'a pas dit « chapeau ». Il a dit « souliers ». Et quand il a dit « repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ », il ne voulait pas dire « Père, Fils et Saint-Esprit ». Il voulait dire exactement ce qu'il a dit. Il a dit « il faut que vous naissiez de nouveau ». Il n'a pas dit « il serait souhaitable que vous le soyez ». Il a dit « voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru ». Il n'a jamais dit « ils les accompagneront, peut-être ». Ce qu'il dit, c'est exactement ce qu'il veut dire. Il est Dieu et ne peut pas revenir sur ce qu'il a dit. Il sait ce qui est parfait. Alors, il le fait ainsi. Et c'est ainsi qu'il veut que ce soit. Et vous devez vous conformer à cela. Ce n'est pas à lui de se conformer à votre idée. C'est à vous de vous conformer à son idée. Voilà la différence. Bon, maintenant, au sujet du corps, de l'âme. Bon, prenez le mot « âme » et regardez ce que cela signifie. Vous verrez dans le dictionnaire biblique ou dans le Webster, dans l'un ou l'autre, que c'est la nature de l'esprit. Maintenant, voici un homme. Disons, voici Jean un tel. Très bien. Jean un tel. Et voici Sam un tel. Très bien. Donc, Jean un tel est un homme, il a un corps. C'est le frère de Sam, un tel. Alors, Jean a un esprit, une âme et un corps. Et Sam, un tel, est la même chose. Corps, âme, esprit, que lui. Corps, âme, esprit. Or, cet homme-ci est méchant, malveillant, tricheur, voleur, menteur, adultère, et fait tout ce qu'il y a de mal. Mais cet homme-ci est rempli d'amour, de paix, de joie. Ils ont tous les deux une âme, un corps et un esprit. Eh bien, quelle est la différence? Cet homme-ci peut se souvenir du passé et dire, « Je me souviens de ma mère. Je me souviens des choses que nous faisions quand nous étions jeunes. » Les deux le peuvent. Chacun d'eux a un esprit, chacun d'eux a une âme, chacun d'eux a un corps. Mais la nature de l'esprit de cet homme-ci est mauvaise. La nature de l'esprit de cet homme-ci est bonne. Voyez, donc, l'âme, c'est la nature de l'esprit de l'homme. Voyez, ainsi donc, Dieu essaie d'entrer dans le quoi? Dans l'esprit de l'homme, dans son cœur. En fait, l'esprit est dans le cœur. Vous savez, selon la science, puisque je n'avais pas fini d'en parler, il est impossible à l'homme de penser avec son cœur. Or, la science commence à découvrir qu'il y a un petit compartiment dans le cœur humain, pas dans le cœur des animaux, mais dans le cœur humain, où il n'y a même pas de cellules sanguines, ni rien. Ils disent, ce doit être l'endroit occupé par l'âme ou par l'esprit. Laissez-les tranquilles. Par leur propre sottise, ils donneront raison à Dieu. C'est vrai, Dieu amène les insensés à rendre témoignage de lui. Maintenant, voilà, de grands titres dans le journal. La petite fille de Frère Bosé a dit, Frère Branham, vous savez ce dont vous parliez l'autre jour? Elle a dit, regardez, La science l'a déjà découvert. J'ai dit, eh bien, que Dieu soit béni. Je veux cela, ma sœur. Je veux cela. L'âme de l'homme, c'est la nature de l'esprit, et l'esprit habite dans le cœur de l'homme. Bon, maintenant, les parvis extérieurs, qu'est-ce que c'est? C'est la chair. Voyez, c'est la première chose à laquelle vous arrivez, la chair. Vous devez surmonter cela premièrement. Vous devez vous élever au-dessus de la chair. Je n'ai pas envie de me lever et d'aller à l'église. Les routes sont trop glissantes. Il fait trop chaud. Oh, l'église, je ne sais pas. Ça, c'est la chair. Très bien. Maintenant, vous devez surmonter et vaincre cela. Dieu doit être au-dessus de cela. La fois suivante, quand il vient, il doit venir dans l'âme. Voilà la nature. Oh, qu'est-ce que les Jones diront de moi? Oh là là, vous savez, mon église me jettera dehors si je fais quelque chose comme ça. Voyez? Mais vous devez vaincre cela. Et quand vous avez vaincu cela, alors il entre dans le cœur. Et c'est là qu'il s'installe sur le trône. C'est le Saint-Esprit en vous. Jésus a dit, il vaudrait beaucoup mieux pour vous qu'on suspende à votre cou une meule de moulin et qu'on vous jette au fond de la mer, plutôt que de même scandaliser l'un de ces petits qui croient en moi. Non pas leur faire du mal, mais le simple fait de les offenser, de les vexer à propos de quelque chose. Il vaudrait mieux pour vous de vous noyer ou de n'être jamais né sur la terre que d'offenser même l'un d'eux. Était-il sérieux quand il l'a dit? Pourrait-il mentir? Est-ce que ce sont les apôtres qui l'ont dit? Non, non. C'est Jésus qui a dit cela. Jésus a dit, même le simple fait d'offenser un de ces petits qui croient en moi. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Un de ces grands hommes imposants dira, « Oh, je crois en lui. Alléluia. » Avez-vous déjà parlé en langue, interprété les langues, chassé les démons, eu des visions? Et ainsi de suite, comme il l'a promis? Non, ces jours-là sont passés. Ce n'est pas un croyant, c'est un soi-disant croyant. Jésus a dit, et là, ce sont les dernières paroles qu'il a prononcées. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Cela s'adresse au monde entier, à toute la création. C'est vrai, ils accompagneront le croyant jusqu'à mon retour. Ce sont les dernières paroles qu'il a prononcées. Combien le savent? C'est dans la Bible. Marc 16. Donc, vous voyez, c'est un soi-disant croyant. Mais quand vous trouvez un croyant qui croit vraiment que ses signes l'accompagnent et que vous le voyez mener une vie empreinte d'humilité, pas un imposteur, et que vous savez qu'il est un chrétien, un véritable et authentique croyant, restez tranquille. Ce que vous devriez faire, c'est de vous joindre à lui et de commencer à avancer parce que vous êtes sur le chemin du roi. Bon, qu'est-ce qui se passe? Regardez bien ceci. Les parvis extérieurs, c'était l'âge de Luther, quand nous avons commencé par le corps de l'Église des nations. Souvenez-vous, c'était des Juifs jusqu'à peu près l'an 606 après Jésus-Christ, quand Thyatire est entré en scène. Presque tous les convertis étaient des Juifs. Mais après ces Juifs, ici, c'est devenu à la fois les Juifs et les gens des nations. Mais on dénombrait plus de Juifs. Mais quand on en est vraiment venu à l'âge des nations, de ce côté-ci, voyez, on a eu Martin Luther, John Wesley, et ainsi de suite. Voyez, maintenant, regardez bien ces trois derniers âges qui suivent l'âge des ténèbres. C'est allé jusqu'au Moyen-Âge et c'est passé outre. Et là, regardez bien ces parvis extérieurs. Voyez, la chair, l'âme, l'esprit. Voyez, ces parvis extérieurs, la chair, le lieu saint, les Nazaréens, les pèlerins de la sainteté, les méthodistes libres, voyez. Et puis, il y a le Saint des Saints, le retour à la Pentecôte, où tout a commencé au début. Voyez, c'est le retour au début. Maintenant, si vous recopiez ce dessin, je voudrais faire des annotations. Bon, la chair a cinq portes d'accès. Ce sont elles qui la contrôlent. Vous le savez, n'est-ce pas? Ce sont les cinq sens. Combien de sens contrôlent le corps? Cinq. La vue, le goût, l'odorat, le toucher, l'ouïe. Pas vrai? C'est la chair, les parvis extérieurs. On ne peut pas se reposer là-dessus parce que c'est la chair. Puis, il y a les parvis intérieurs. Nous avons les parvis intérieurs qui constituent l'autel suivant. Et dans l'autel suivant, on trouve, et on y trouve la conscience, les imaginations, les souvenirs, les passions et les affections. Voilà les cinq sens qui contrôlent les parvis intérieurs, c'est-à-dire l'âme. Les sens de l'affection, c'est l'âme, l'amour, et ainsi de suite. Et ensuite, ici, à l'intérieur, dans ce capteur, il y aurait aussi les souvenirs, la conscience, la miséricorde, et ainsi de suite. Et l'imagination. Quand vous êtes là à imaginer des choses, par quoi le faites-vous? Vous ne le faites pas par la chair. Vos sens ne peuvent pas avoir de l'imagination. C'est par le parvis intérieur qui est en vous. Il a trois portes. Que faisons-nous? Là, nous rendons cela simple. Ne manquez pas cela. On a commencé par la chair, les cinq sens. Ensuite, l'âme, les parvis intérieurs. Mais maintenant, on en est au cœur. Voyez? Eh bien, c'est là que vous êtes restés, vous les braves pèlerins de la sainteté et les méthodistes, là, à cet autel extérieur. Vous voyez? Vous êtes dans les parvis. Vous, les luthériens et tout, vous êtes au niveau de la chair, là, au début, au niveau des cinq sens, de ce que l'œil peut voir et comprendre. Voyez? Voici où se situent les pèlerins de la sainteté, qui ne sont rien d'autre que des méthodistes libres. Ils ont atteint les parvis suivants et ont cru en la sainteté, parce que ça s'appelait le lieu saint, où on offrait le sacrifice. Mais une fois par an, le souverain sacrificateur entrait dans le Saint des Saints, qui était fermé. Là, c'était l'âge luthérien, ensuite l'âge méthodiste, et maintenant, c'est cet âge-ci, les lumières de l'Église qui viennent. C'est semblable au système de l'être humain. Alors, comment entrons-nous dans ceci? Maintenant, souvenez-vous, il y avait un voile suspendu entre le lieu saint et le Saint des Saints. Ce Saint des Saints, c'est là où Christ vient s'asseoir sur le trône de votre cœur. Christ se place sur le trône. Il vient par la justification, pas vrai? La sanctification, et puis par une seule eau, par une seule Église, par un seul credo, non, par un seul esprit. C'est à partir de là que nous sommes tous baptisés pour former un seul corps, qui est le corps de Christ. Par le quoi? Le Saint-Esprit. Qui entre? Le méthodiste, le baptiste, le presbytérien, le pentecôtiste, celui qui veut. Ce voile, vous savez ce qu'est ce voile qui voile votre cœur, qui vous empêche de voir cela? Êtes-vous prêt? Le voile s'appelle le libre arbitre. Voyez-vous le tableau maintenant? Les sens qui sont à l'extérieur, les sens du corps et les sens de l'âme. Et le voile entre cela et le lieu saint, le Saint des Saints. Et la seule façon pour vous d'y entrer, c'est par le libre arbitre. Car celui qui, quoi? Celui qui serre les mains, celui qui est immergé, celui qui adhère à l'Église, celui qui apporte sa lettre, celui qui fait, non? Celui qui veut aller au-delà du voile, qui laisse Christ entrer dans ses sens. Vous dites, eh bien, je devrais, je ne veux pas aller en enfer. Ça, c'est une chose. Je vais adhérer à l'Église. Très bien, luthérien. Eh bien, je vais vous dire, je pense que je devrais mener une vie différente. Père de mon mieux, la sanctification à l'autel. Très bien, méthodiste. Très bien. Et celui qui veut. Qu'ils franchissent le voile déchiré. Oh, gloire à Dieu, je suis de l'autre côté. Alléluia à son nom. Oh là là, celui qui veut qu'il déchire les rideaux de sa propre volonté et que Dieu entre dans son cœur. Voilà Christ assis sur son trône de jugement dans le cœur humain. Que va-t-il se passer? Vous dites, je dois, oh, je peux raconter des plaisanteries grossières. Et ça ne me condamne pas. Pourquoi? Il n'y a rien en eux qui puisse les condamner. Il n'y a personne au-dedans pour ôter cela. Personne n'est là pour vous condamner. Eh bien, je vais vous dire une chose, disent les femmes. Je peux avoir les cheveux courts, ça ne me condamne pas. Ce n'est pas étonnant, voyez. Oh, je peux porter des shorts, je peux faire ceci. Les hommes disent, Ça ne me fait pas de mal de fumer des cigares. Ça ne me fait pas de mal de jouer aux cartes et de jouer aux dés et toutes ces choses qu'ils font. Ça ne me fait pas de mal. Et ils continuent d'être membres de l'Église, vous voyez. Ça ne me fait pas de mal de faire ceci. Pourquoi? Pourquoi? Il n'y a rien en vous qui puisse vous juger. Mais quand Christ entre en vous, vous avez créé un autel dans votre cœur et vos péchés sont ôtés chaque jour. Le grand saint Paul a dit, « Je meurs chaque jour. Quoi que je vive, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Voilà le voile intérieur. Oh, frère, sœur, que je me dépêche. Je sais, oh non, je ne peux pas le terminer. J'ai dépassé l'heure. Voyons voir. Permettez-moi de... Non, vaut mieux pas. Vous voyez, j'aimerais parler des 24 anciens, mais je sais que je vous retarde tous d'aller dîner. Nous allons juste... Voyons voir. Combien veulent qu'on parle des 24 anciens? Juste... Très bien. Juste un instant. Très bien. Juste un instant. Les 24 anciens. Parlons-en donc rapidement. Autour du trône. Il y en avait 20 autour du trône. Maintenant, vous voyez ce que... Où est le trône en ce moment? Dans le cœur. Dans le cœur de qui? Des membres des sept âges de l'Église. Christ. Si vous dites quoi que ce soit contre ce qu'ils font, vous êtes condamné. Vous en répondrez au jour du jugement. Et qui jugera la terre? Les saints jugeront la terre. Qui, Daniel, a-t-il vu venir avec lui des dizaines de milliers de milliers? Les saints. Les livres ont été ouverts, celui des pécheurs. Un autre livre a été ouvert, c'est-à-dire le livre de vie, la Vierge endormie. Oh là là, ne peuvent-ils pas le voir? L'Église endormie, ceux qui sont sortis à la rencontre de l'Époux et qui ont laissé tarir l'huile de leur lampe. Ils ne sont jamais entrés dans ceci. Ils n'ont jamais laissé Christ prendre le contrôle afin d'opérer des miracles, de parler en langue, de faire des prodiges, et autre chose, pour prouver qu'il vivait dans son Église. Et si Jésus était venu sur la terre et avait dit, « Je suis Jésus, c'est moi, le Fils de Dieu », et qu'il n'avait rien fait d'autre, juste de dire, « Je vais aller là-bas et adhérer à l'Église », est-ce que ça, ça aurait été le Fils de Dieu? Qu'est-ce qu'il a dit? Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Oh là là, voyez-vous cela? Dieu montre qui il est. Il aime le faire. Il est Jéhovah. Il aime se faire connaître. Oh, j'en suis si heureux. Oui, monsieur, il s'est fait connaître à moi. Et je sais qu'il s'est fait connaître à vous. Certains d'entre vous, les jeunes, vous êtes nouvellement convertis et vous ne... Peut-être que vous ne le connaissez pas par la puissance et par ces grandes choses, comme les chrétiens plus anciens. Mais vous avancez, vous y arriverez bientôt. Vous montez le chemin du roi. Ne... Sans détourner le regard, continuez à presser le pas à toute vitesse. Courez, courez, courez à toute vitesse. Ne laissez rien vous arrêter. Continuez simplement à avancer, comme le disait la brave vieille sœur Snelling. Je cours, je cours, je cours, je viens de traverser. Je cours, je cours, je cours, je viens de traverser. Je cours, je cours, je cours, et je ne tiens plus en place. Cette brave âme, elle est là-bas aujourd'hui. Très bien, maintenant, il y avait des trônes, et il y avait 20 trônes plus 4. Bon, combien ça fait? 20 plus 4, 24, très bien, 24 trônes, et sur le trône, sur les trônes, 24 anciens, chacun sur un trône, vêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Maintenant, les 24 anciens, je veux que vous remarquiez qu'ils n'étaient pas des êtres angéliques. Les anges n'ont rien à voir. Les êtres célestes n'ont rien à voir avec les couronnes et les trônes. Vous voyez, ils n'ont rien à y voir. Ce sont des anges. Ils n'ont jamais vaincu. Si vous prêtez attention un peu plus loin, les chants qu'ils chantaient et tout en était la preuve. Voyez, ils chantaient le chant de la rédemption. Or, les anges n'ont pas besoin d'être rachetés. Voyez, très bien. Mais ils étaient des hommes rachetés. Je ne suis pas, vous autres, je n'aurai pas le temps d'aborder ceci, mais vous qui prenez des notes, si vous voulez savoir si ces hommes étaient des rachetés, notez Matthieu 19, 28. Très bien, 19, 28. Matthieu, Apocalypse 3, 21. Et prenez aussi Apocalypse 24. Apocalypse 2, 10. 1 Pierre 5, 2 à 4. 2 Timothée 4, 8. Là, vous saurez que ce sont des rachetés. J'aimerais étudier cela ce matin, vous voyez, et on pourrait bien passer cela au peigne fin pendant des semaines. Vous voyez, ils n'étaient pas des êtres angéliques, ils n'étaient pas des êtres célestes. Ils étaient des hommes rachetés. Voyez, vous pouvez observer leurs vêtements, la façon dont ils étaient vêtus. Vous pouvez observer la position qu'ils occupaient, ce qu'ils avaient. Observez les chants, ce qu'ils chantaient, et vous saurez qu'ils n'étaient pas des êtres angéliques. Je n'aime pas en arriver là, mais lisons un passage de l'Écriture de plus. D'accord? Très bien. Revenons à Daniel 7. Juste un instant, ici, en arrière. Daniel 7. Et lisons un passage de l'Écriture ici. Alors, ceci va vous aider énormément pour la suite du message ce matin. Je suis sûr que cela vous fera vous sentir beaucoup mieux après l'avoir lu et vu. Avoir vu ce que Daniel, le chapitre 7 de Daniel, et commençons maintenant au Daniel 7. Prenons le 9e chapitre, le verset 9. Maintenant, écoutez attentivement ceci. Et je regardais alors que l'on plaçait des trônes, et l'Ancien des Jours s'assit. Ses vêtements étaient blonds comme la neige, et ses cheveux de sa tête étaient comme la laine pure, et son trône était comme des flammes de feu. Vous voyez, c'est encore ce feu émeraude qui revient, et les roues comme un feu ardent. Et un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Des milliers de milliers le servaient, et des dizaines de milliers de milliers, voilà, vous rachetez, se tenaient en sa présence, et les juges s'assirent, et les livres au pluriel, ont été ouverts. Maintenant, remarquez, ces juges se sont assis. Voyez, maintenant, regardez bien. Daniel, quand il a vu les trônes au jugement, ils étaient vides. Il a vu les trônes au moment où on les plaçait. Ils descendaient du ciel. Et l'Ancien des Jours est descendu du ciel. Mais quand Jean l'a vu, le trône était déjà occupé par Jésus. Et les trônes des disciples et des patriarches qui avaient été rachetés étaient déjà occupés. Voyez, Daniel l'a vu 500 ans avant l'époque de Christ. Et puis, après Christ, ce qui ferait 2500 ans, Jean vivait là, dans cet âge à venir. Et il avait vu toutes ces choses arriver. Or, Daniel n'a pas vu ces choses. Voyez, il a seulement vu l'Ancien des Jours venir. Il l'a vu venir. Mais quand Jean l'a vu, le trône était occupé. Voyez, les trônes étaient placés en présence de l'Ancien des Jours, et les juges s'étaient assis. Mais quand Jean l'a vu, les anciens n'avaient pas encore été choisis à l'époque de Jean, ou plutôt à l'époque de Daniel. Mais à la fin des temps, ils étaient déjà rachetés. Oh là là! Oh, n'est-ce pas? N'est-il pas merveilleux? Alors, Daniel 7, qu'a fait Daniel? Il a vu d'avance le jugement et a vu que les trônes étaient vides. Vous voyez, ils étaient censés être vides. Or, Jean, en son temps, après que l'Église a été enlevée, ils étaient occupés par les anciens qui étaient rachetés. Un ancien, qu'est-ce que cela signifie? Si vous prenez le mot « ancien », j'ai à peu près… Toutes ces définitions sont écrites ici. Je fais juste un survol. « Ancien » signifie le chef d'une ville ou le chef d'une tribu. Un ancien, c'est le chef de quelque chose. Par exemple, je serais dans cette église, Frère Neville est un ancien. Qui est-il? Il est le chef de ce corps local. Voyez, et le maire de la ville serait l'ancien de cette ville. Vous voyez, les anciens des villes. Vous souvenez-vous des anciens de la ville, du temps de la Bible? Ancien signifie le chef d'une ville ou le chef d'une tribu. Bon, combien étaient-ils? 24. 24 anciens. Pas vrai? Maintenant, oh là là, qui étaient-ils? Les 12 apôtres et les 12 tribus d'Israël. les 12 patriarches. Nous allons voir cela jusqu'à ce qu'on arrive aux autres leçons et prouver que c'est vrai. Alors vous, je suis content que vous le notiez maintenant. Voyez, les 12 patriarches et les 12 tribus d'Israël. Alors, regardez bien. Jésus a dit que Pierre a demandé un jour, il a dit, « Qu'en sera-t-il pour nous ? Nous avons quitté père, mère, mari, femme, enfant, tout le reste. Nous avons tout quitté. » Pierre a dit, « Nous avons quitté nos femmes, nous avons quitté nos enfants, nous avons quitté notre père et notre mère, nos maisons et nos terres. » pour te suivre. Il a dit, « en vérité, je vous le dis, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus. » Et voilà, ce sont les rachetés, les anciens qui ont été rachetés. Regardez, regardez David qui représentait Christ. Voyez, quand David est arrivé au pouvoir, tout d'abord, il a passé des moments difficiles avant son arrivée au pouvoir. Pourtant, il avait l'onction sur lui. Oui, l'onction était sur lui. Et beaucoup de gens se disaient, ce n'est qu'un petit renégat, un petit homme différent, en quête de détruire quelque chose. Mais il y avait quelques hommes qui savaient qu'il serait bientôt roi. Ils sont restés avec lui. Frère, ce que je veux dire, c'est que rien n'aurait pu les séparer de lui dans leur marche. Un jour, alors qu'il était sur la montagne, il a regardé en bas et a vu sa petite ville bien-aimée, assiégée par l'ennemi. Et là, il s'est souvenu quand il était petit garçon, quand il conduisait les moutons partout là-bas et buvait de cette eau. C'était une eau véritable. Nous en avons parlé ici, il n'y a pas longtemps, les eaux de la vie. Et voilà qu'il s'est dit, « Je désire tant boire de cette eau. » Et son moindre désir était un ordre pour tous les hommes qui étaient à son service. Frère, deux de ces hommes ont saisi leurs épées et se sont battus contre les Philistins sur une distance de 24 kilomètres, les taillant en pièces à droite et à gauche pour lui apporter une gorgée d'eau de ce puits. Ils savaient qu'il régnerait bientôt. Oui, monsieur, une fois, pour le sauver, l'un d'eux a sauté dans une fosse et a tué un lion à main nue. C'était des guerriers. Et quand il est arrivé au pouvoir, vous savez ce qu'il a fait? Il a établi chacun d'eux chef d'une certaine ville. Voyez-vous, Christ, là, celui qui vaincra régnera sur une ville. Les vainqueurs. Aujourd'hui, alors que nous voyons qu'il vient avec puissance, Christ régnera dans ce monde. L'Allemagne, les États-Unis et les autres pays s'effondreront. Chaque nation s'effondrera. Les royaumes de ce monde seront devenus les royaumes de notre Dieu et de son Christ. Il les gouvernera et régnera sur eux. C'est vrai. Nous savons qu'il régnera bientôt. Aussi, le moindre de ses désirs est un ordre pour nous. S'il veut que je le représente dans une toute petite ville de rien du tout, où il n'y a même pas 50 sous, où il n'y a rien, ou juste un groupe de pauvres gens, c'est un désir. Amen. Vous n'avez pas besoin d'en avoir autant. Vous n'avez pas besoin de faire ceci. Dites-moi seulement qu'il le désire et j'irai. Amen. C'est tout. S'il veut que je fasse autre chose, que j'agisse différemment, comme ses sœurs et tout, s'il veut que je fasse une certaine chose, que Dieu soit béni, c'est un privilège pour moi de le faire. Voilà, nous savons qu'il vient avec puissance, quoi qu'en dise le monde. Si je dois rejeter tout fardeau et le péché qui m'enveloppe si facilement, que je cours avec persévérance dans la carrière qui m'est ouverte, que mes regards soient fixés sur le chef et le consommateur de notre foi, Jésus-Christ, lui qui vient avec puissance. Ces anciens, les 24 anciens. Très bien. 12, dans Apocalypse, nous voyons ceci. Dans le livre de l'Apocalypse, vers le chapitre 21, nous voyons que la ville de Jérusalem avait 12 fondements. Pas vrai? Et il y avait 12 portes, soit 3 de chaque côté, 3 fois 4 font 12, exactement comme le tabernacle érigé dans le désert. Car Jean a dit exactement, et il a vu exactement la même chose que Moïse avait vue quand il était là-haut, la même chose que Paul avait vue. Et maintenant, nous remarquons que les 12 fondements portaient les noms des apôtres. Et sur les 12 portes était inscrit le nom de chaque tribu. Oh, comme nous regardons cela, et nous voyons ces 12 anciens, les 12 tribus, les 12 apôtres, les 12 fondements, les 12 portes. Oh là là! Prenez les nombres de Dieu et vous ne pouvez pas le manquer. Chaque fois, à coup sûr, ça tombera en plein dans le mille. C'est pour ça, voyez-vous, que nous avons ces 6 jours pendant lesquels le monde a travaillé. Et nous sommes maintenant très près de ce 7e jour. Les premiers 2000 ans, Dieu a détruit l'eau, le monde par l'eau. Après la deuxième période de 2000 ans, Christ est venu. Nous sommes en 1961. Il est à la porte. Il ne reste qu'un peu de temps. Et regardez, Jésus a dit, « Eh bien, ça n'ira pas jusqu'à son terme, a-t-il dit, parce qu'il faut que j'abrège l'œuvre. Sinon, la bombe atomique détruira toute chair. Ah oui, à cause des élus, j'abrégerai l'affaire en justice. L'abréger, juste une partie du temps. Vous voyez, ensuite, ce sera le millénium de 1000 ans, le grand jour. Ainsi, l'Église aura lutté contre le péché pendant 6000 ans. Et le 7e millénaire, c'est le millénium. De la même manière que Dieu a mis 6000 ans à bâtir le monde et qu'il s'est reposé de toutes ses œuvres au 7e millénaire. Ainsi, l'Église lutte contre le péché pendant 6000 ans. Et au 7e millénaire, l'Église se repose. Les vêtements blancs que portaient les anciens, c'est la justice des saints. Le blanc signifie la justice. Et le fait qu'ils portaient ces vêtements montre qu'ils étaient des sacrificateurs ou des juges. Vêtus de vêtements blancs, des sacrificateurs, des juges, des prophètes, ainsi de suite. Voyez ce qu'ils étaient. Ils portaient des vêtements blancs. Les 24 anciens, il y aura 24 anciens. Il y en aura 12 pour les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres pour l'Église. Et ils étaient assis dans les parvis du grand roi. Rappelez-vous que ceux-là, ils y sont assis. Et ici, c'est l'épouse et Christ assis sur son trône. Et son épouse, l'Église, est assise près de lui. Les 24 anciens. Les 144 000 eunuques du temple qui le servent. Quand il se lève, son épouse l'accompagne. Oh, oh là là! Dans ce grand âge qui vient, quand tout péché, et même l'apparence du péché, tous ces grands et beaux édifices que les gens chérissent tant aujourd'hui, tout l'argent et la convoitise, tout le péché, les belles femmes et les beaux hommes, tout ce qu'ils essaient de faire de leur corps, et ceci ou cela, pour être un piège, pour que le diable envoie leur âme en enfer, ces choses périront et pourriront, et les vers de la peau les dévoreront. Tout d'abord, les vers de la peau, tout ce qu'ils auront été, finira dans un feu volcanique, et ne deviendra rien d'autre que des retombées radioactives et des cendres volcaniques. Mais un de ces matins, mes amis, un de ces matins, quand tout sera fini, tout fleurira de nouveau. Les champs couverts de trèfles blancs et le parfum de la rose se mêleront aux fleurs de l'arbre de vie. Et Christ reviendra un de ces matins, quand les grands oiseaux et les colombes se percheront dans les arbres et roucouleront. Il n'y aura plus ni mort ni chagrin. Christ et ses rachetés reviendront sur la terre. Non pas des vieillards, mais ils seront jeunes pour toujours, immortels. Nous serons à son image, brillant avec plus d'éclat que le soleil et les étoiles.
I'm bound for that beautiful city my Lord has prepared for his own, where all the redeemed of all ages will sing glory around the white throne. Sometimes I get homesick for heaven. And the glory of you, behold, what a joy that will be when my Savior I see in that beautiful city of gold. How I long to see him.
Comme j'ai hâte de le voir. Oh, je désire le voir. Sur l'île de Patmos, Jean l'a vu descendre comme une épouse parée pour son époux. J'aimerais en contempler la gloire un de ces jours. Je désire le voir face à face, et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans les rues pavées d'or, élevez ma voix. Mes soucis sont finis, je suis à l'abri. les petits dérapages et glissades dans la neige, les petits coups de chaleur et les labeurs de la journée. J'aimerais que ma femme et ma belle s'avancent et chantent ce cantique pour moi, si je pouvais. Les peines de la route me sembleront bien peu de choses quand je parviendrai au bout du chemin. C'est vrai. Je me souviens du soir où j'ai quitté l'église pour commencer le travail d'évangélisation. Quand vous pleuriez tous, il ne reste pratiquement plus de ces gens, seulement quelques-uns de vous, ici, sœurs et frères Spencer, et peut-être quelques vieux de la vieille qui nous restent, étaient présents. Quand les gens pleuraient ici, mais lorsque le Saint-Esprit a dit « Il faut que tu y ailles », je me souviens de ma première série de réunions. Après des mois d'absence, Meda est venue à Jonesboro. Becky n'était qu'un tout petit bébé. Elles sont venues par l'ancien train de la Cotton Belt. Il aura fallu des jours pour y arriver. Et j'étais là, à l'extérieur, quand elle est arrivée ce soir-là. Nous avons essayé d'accéder à la salle. Déjà à trois pâtés et deux maisons de là, les policiers barraient les rues. Les rues étaient déjà bondées. On a dû me faire traverser les rues et faire des détours pour accéder au site. Meda a dit, « Sont-ils tous venus pour t'entendre prêcher, Bill ?» J'ai dit « Non ». Puis, on a chanté.
Blessed partakers of his grace as gems in his crown to shine. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy? Our sorrow and deep despair. When our Lord in glory comes, we'll meet him up in the air.
Amen. Oh, je l'aime. Seriez-vous dans le chagrin et dans une profonde détresse? Ou seriez-vous dans la joie? Quand notre Seigneur viendra dans la gloire, nous le rencontrerons dans les airs. Avec ses pensées à l'esprit, courbons la tête. Si le Seigneur le veut, je terminerai ce service une autre fois. Notre Père Céleste, oh, ils viendront de l'Est et de l'Ouest. Ils viendront de lointains pays. Je pense à ce glorieux enlèvement, les gens à qui j'ai prêché, en Afrique, en Inde et partout dans le monde. Je verrai de nouveau leur visage. Beaucoup d'entre eux pleuraient, se dirigeaient vers l'avion, s'appuyaient sur les clôtures, hurlaient et pleuraient. Je pense au moment où les gens sont sortis accompagner Paul une fois. Ils se sont agenouillés et ont prié. Il a dit, « Je suis certain qu'aucun de vous, que beaucoup d'entre vous qui êtes ici, ne verront plus mon visage. Mais ils viendront de l'Est et de l'Ouest. Ils viendront de lointains pays. À la fête de notre roi, manger à sa table, que ses pèlerins sont bénis, contemplant son saint visage dans la gloire émeraude, brillant de la lumière divine, pas seulement une lumière de lampe ou de bougie, mais la lumière divine, brillant de la lumière divine, participant de sa grâce, les joyaux de sa couronne. Ô Dieu, quand la pierre ardente toucha le prophète, le rendant aussi pur qu'on puisse l'être, quand la voix de Dieu dit, « Qui enverrai-je ? » Il répondit, « Maître, envoie-moi. » Oh, envoie l'ange ce matin, les chérubins aux six ailes, comme Ésaïe les a vus, qui volait dans le temple en criant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Le jeune prophète Ésaïe a dit « Mes lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple impur, et mes yeux ont vu la gloire de l'Éternel ». Les poteaux du temple ont été ébranlés, et un ange a pris une pierre ardente sur l'autel avec des pincettes. On a touché ses lèvres et a dit « Je purifie tes lèvres, maintenant, fils de l'homme, prophétise ». Envoie l'ange ce matin, Seigneur. purifie nos lèvres de toute infamie, purifie notre cœur et entre-y, Seigneur. Brise notre volonté personnelle, afin que ma volonté en toi soit ta volonté, Seigneur. Oh, fais ta volonté en moi, ô Dieu, et que moi, mon Église et les miens t'appartiennent, ô Seigneur. Nous nous remettons entre tes mains. Et comme le poète l'a ensuite dit, ô Père, des millions se meurent dans le péché, en Afrique, en Inde, dans le monde entier, des milliers à chaque heure, ils viennent à ta rencontre, sans te connaître. Des millions se meurent dans le péché. Là, ô Dieu, cela déchire mon âme d'y penser. Entends leurs cris tristes et amers. Dépêche-toi, frère, va vite à leur secours. Oh, réponds-lui, Maître, me voici. Accorde le Seigneur, accorde-le encore. J'ai fait toutes sortes d'erreurs, Père, au cours de cette dernière année. Je te prie de me les pardonner. Et en cette nouvelle année, Seigneur, oins-moi de nouveau. Permets que j'aille vers ces millions qui se meurent dans le péché pour leur apporter cette grande révélation de ta vérité et leur apporter l'onction du Saint-Esprit, afin que ce jour-là, ils puissent venir de l'Est et de l'Ouest, brillant comme les joyaux de ta couronne. Aide-moi, Seigneur, à les prospecter là-bas et les extraire du sol, de la saleté de la terre, de la saleté et de la souillure dans lesquelles ils vivent, et qu'ils voient un Dieu saint, qui les purifie et les fait vivre comme des chrétiens, sanctifiés et purs devant toi, qu'ils se détournent du mal, de toutes sortes d'amusements mondains, et se tournent vers un Dieu vivant, qui fait d'eux des délégués de ton royaume en vue de ce glorieux jour. Sanctifie cette petite église ce matin, Seigneur. Sanctifie chaque personne ici par ton esprit et que le Saint-Esprit entre dans leur cœur, en chacun de nous. Rafraîchis l'esprit en ceux qui ont déjà ouvert leur cœur par leur volonté personnelle, ceux qui ont renoncé à leur propre volonté et qui sont venus pour connaître ta volonté. Ces jeunes, Seigneur, beaucoup d'entre eux ne sont que de petits enfants. Oh, combien tu les prends dans tes bras pour leur donner des soins, comme une mère qui prend soin de ses enfants, qui essuie les larmes de leurs yeux et qui leur donne des choses spéciales parce qu'elle les aime. C'est comme ça que tu aimes tes petits-enfants nouveau-nés, Seigneur. Ils ne peuvent pas encore marcher. Ils ne peuvent même pas parler. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de pleurer et de compter sur maman. Ô Dieu, tiens-les tendrement dans tes bras, comme de petits agneaux, et conduis-les jusqu'à ce qu'ils deviennent matures et qu'ils puissent marcher. Ensuite, conduis-les, Seigneur, dans les sentiers du service. Accorde-leur. Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons à ceux qui pêchent contre nous. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai confiance que le Seigneur a fait quelque chose pour vous ce matin, afin que vous commenciez la nouvelle année sur cette seule chose, que vous aimez Jésus-Christ, et que vous désirez le voir un de ces jours, l'aimer et vivre avec lui pour toujours. C'est mon désir qu'aucun de vous ne soit perdu, que chacun d'entre vous soit sauvé et rempli du Saint-Esprit, et soit gardé jusqu'au jour de sa venue, parce que je crois qu'elle est très proche. Maintenant, je remets le service à Frère Neville.